Bonjour et bienvenue sur comicstories.fr pour le 293e épisode de notre podcast, un épisode qui sera consacré cette fois-ci à des chroniques de sorties comics VF, mais aussi VO et à quelques adaptations. Je suis Mathieu et vous allez écouter le 293e épisode de Comic Stories. Pour cette émission de janvier, une équipe un peu réduite par rapport à ce que vous entendez d'habitude, puisque je suis avec Boris.
Bonjour.
Et Clément.
Bonjour.
On a un joli programme, hein, c'est pas parce qu'on n'est pas beaucoup qu'on a peu de choses à dire, au contraire, on s'est peut-être un petit peu lâché plus du coup. On va commencer avec l'AVF, comme d'habitude, et avec une news qu'on attendait depuis le Free Comic Book Day de l'année dernière, Boris.
Oui, alors on avait eu effectivement lors du Free Comic Book Day un extrait, un premier chapitre, je crois, de Mind MGMT de Matt Kind chez l'éditeur Toussaint L'Ouverture, et donc on attendait l'annonce donc de la sortie de la série en librairie. Donc ça y est, c'est tombé, le premier tome arrivera en mars prochain et la série sera sur 3 tomes, le tome 2 en septembre et le tome 3 en janvier 2021. Donc dans moins d'un an, la série sera close en VF. Donc on attend ça avec impatience parce que ce qu'on avait pu voir donnait bien envie.
24,50€ pour chaque tome.
Ouais.
Des tomes qui vont être assez garnis, hein, parce qu'on a, enfin, rien qu'à voir le TP qui représentait du coup le début du premier tome était quand même déjà bien épais. Donc moi j'ai hâte.
Ouais, très très envie de découvrir ce titre.
Alors les couvertures des volumes partagent un peu, hein. Moi je trouve ça chouette, je les trouve belles. C'est pas le cas de tout le monde. Bah, je crois que toi t'en fais partie d'ailleurs, Boris, qui trouve pas les couvertures.
C'est pas que je la trouve pas belle, c'est que je suis pas sûr que ça attire les personnes qui iront pas naturellement vers cet auteur ou chez cet éditeur. On va dire ceux qui lisent du super-héros et c'est tout. Si on veut les attirer un peu, est-ce que ça va leur donner envie? Je suis pas sûr. Après, là, effectivement.
Je pense qu'ils visent aussi le public franco-belge avec ça.
Oui, aussi, oui. Bon, si ça attire du monde.
En tout cas, rendez-vous en mars, du coup, pour la sortie du tome 1, et forcément, on lira ça et on en parlera. Allez, on va commencer nos chroniques. Deux titres VF. On le sait, Clément n'est pas pressé pour lire des choses, même quand elles sont excellentes. On en a déjà parlé chez nous, mais enfin il l'a lu, donc du coup on va quand même lui laisser la parole pour nous dire quelques mots de son expérience avec Kaiju Max, le tome 1, ouais, qui est sorti au printemps de l'année dernière chez Bliss Edition.
En juin, c'est ça, en juin 2010. C'est bon, je commence.
Vas-y, on t'autorise.
Ouais, il y a eu un blanc, donc... Ouais, alors, vite fait pour l'histoire, c'est en gros, c'est un kaiju, c'est ça qu'on appelle comme ça. Un kaiju, donc électro-gore, qui en fait va chercher de la nourriture pour ses morpions, hein, ses gamins, et va se retrouver enfermé dans une prison où est enfermé un tas d'autres kaijus. Voilà pour l'histoire générale, je ne vais pas m'étendre dessus. En plus, si vous en avez déjà parlé. Alors, assez déroutant parce que je connaissais pas du tout ce titre, même si vous en avez déjà parlé. Et c'est vous qui, c'est Mathieu qui m'a dit quand on était à la Comic Con, qui m'a légèrement influencé, il m'a dit que c'était vachement bien. Je connaissais pas du tout, j'avais aucun a priori, mais déjà Thunder Cannon, c'est écrit par Thunder Cannon et dessiné. Thunder Cannon était hyper sympathique, donc forcément ça incite quand même à lire le machin. Et puis ensuite, les dessins ont éveillé ma curiosité, donc j'y allais sans a priori. Et c'est une excellente surprise. Ô combien même, j'avais aucune notion sur les kaiju, hormis l'aspect typiquement Godzilla. Donc c'était assez déroutant et j'ai pris un réel plaisir parce que mine de rien, c'est hyper bien écrit, c'est hyper bien pensé et c'est vraiment, y a vraiment du fond quoi. Il y a une lecture qui est intéressante, Ah, je suis fatigué, j'ai un trou de mémoire. Un arrière-plan de lecture, merde, j'arrive plus à... Un sous-texte. Voilà, le sous-texte est vachement intéressant et ça donne à la fois des moments drôles et aussi des moments touchants. Donc, c'est vraiment excellent et très surprenant. Et je pense que s'il y a des amateurs de kaiju, je pense que ça va être encore plus intéressant à lire. Et l'édition de Bliss est vraiment excellente parce qu'il y a un tas de bonus, notamment sur les kaiju et sur l'aspect de création des setups. Donc, c'est vraiment une super bonne surprise.
Un vrai récit carcéral bien sombre.
C'est ça.
Contrairement
c'est ça.
À ce que laissent penser les dessins.
Ouais, voilà, ouais, c'est bien, bien, bien sombre, bien noir. C'est un thriller un peu, hein, quand même.
Oui.
Avec son déroulé du scénario. Et effectivement, si on feuillette le livre, on doit se dire, oh, c'est une histoire gentillette pour les gosses. Et absolument pas. C'est tout le contraire. Mais par contre, effectivement, c'est hyper bien écrit et ça se développe tout au long du premier tome. Donc ça, c'est le tome. En fait, il y a 4 saisons. Mm-hmm. Le tome, ça, c'est la saison 1. Et donc, c'est une et deux réunies.
Oui.
D'accord.
Ouais.
Et je crois qu'il est en train de finir la saison 4 en VO.
La saison 5 même, je crois. Perdu. Vient de se terminer.
C'est vrai.
Ouais, les saisons 3 et 4 vont sortir dans le livre 2 cette année, chez Bliss, logiquement. Et du coup, la 5 est terminée. A priori, il devrait y en avoir une 6 qui constituerait un livre 3 pour plus tard, du coup, chez nous. Mais ça continue, donc... Kaiju Max, c'est pas terminé, donc il y a encore, de jolis pavés à nous livrer en France. Allez Boris, toi tu nous as parlé dans l'émission précédente, je crois, celle de décembre, du premier tome de The Boys que tu avais lu, que tu avais enfin réussi à trouver, et du coup t'as enchaîné logiquement sur le deuxième.
Voilà, j'ai enchaîné le 2, je vais essayer d'en lire un par mois à peu près, ça serait pas mal. Donc The Boys tome 2, c'est de Garth Ennis et d'Eric Robertson au dessin essentiellement. Donc je rappelle rapidement le pitch de départ, c'est un groupe de personnes engagées par la CIA pour surveiller les super, alors je ne sais pas si on peut dire héros, parce que dans le monde que choisit de décrire Garth Ennis, on ne peut pas dire que ce soit des héros puisqu'ils n'ont pas vraiment de morale, ils ont à peu près
tous les vices,
oui, je crois qu'on peut le dire, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc voilà en gros le pitch de départ. Donc quand j'en avais parlé pour le volume 1, effectivement c'était un ton très trash, et il se permettait à peu près tout ce qu'il avait envie de dire et de faire. Donc là on est vraiment dans la même idée, il n'y a pas de limite. Donc ce qui différencie un peu par rapport au tome 1, c'est que il y a un arc où il décrit l'origine des 7. Alors les 7, c'est le groupe de super qui domine un peu le monde et qui fait tout et n'importe quoi. Donc Garth Ennis prend plusieurs épisodes pour raconter ça, c'est assez bavard, mais il construit ça en parallèle avec d'autres intrigues qui sont bourrées d'action, et donc ça permet de fluidifier toute cette partie. Donc ça c'est bien, plutôt bien écrit, puis l'origine de ces super est intéressante et trash évidemment. Il rajoute aussi dans son récit une relation entre Huggy. Alors Huggy, je vous rappelle, c'est le dernier qui est arrivé dans le groupe, qu'ils ont recruté, dont la petite amie avait été tuée par un super lors d'une intervention. Et donc il instaure une relation entre lui et une super qui s'appelle Stella, et qui elle aussi était la dernière arrivée dans le D7, et qui a gardé un petit peu sa naïveté initiale, et qui n'arrive pas à s'adapter au monde de trash de ses amis des super. Et donc ça crée une vraie tension, parce que ils savent pas que l'un est dans un groupe et l'autre est dans le groupe des super. Donc ça crée vraiment une tension, et pour l'instant bon, ça évolue petit à petit, et voilà, ça va se révéler. Je suppose que ça va faire des étincelles dans le tome 3. En termes d'ambiance, on est toujours dans le sexe, la baston. Il y a là un fond aussi politique qui est pas inintéressant, hein. Il nous donne un peu sa vision du monde qui n'est pas forcément réjouissante. Et ça se lit super bien, encore une fois. Bon, il faut aimer l'humour un peu trash de Garth Ennis, mais franchement, c'est toujours agréable. Je suis avec plaisir, donc je n'ai pas commencé le 3, je vais m'y mettre. Mais pas déçu pour l'instant. Voilà.
Eh bien, très bien. Rendez-vous du coup dans un mois pour la suite, peut-être.
normalement, c'est prévu.
En tout cas, tu m'as donné envie de la terminer cette série puisque j'avais lu bah, le premier. Moi, j'avais lu le premier tome, puis je m'étais arrêté la faute de temps parce qu'il faut bien faire des choix dans les lectures. Hein, je l'avais dit le mois dernier quand on avait parlé. Du coup, bah, je pense que je vais me le refaire ce tome 1 en VO évidemment et je continuerai après tranquillement. Voilà, parce que j'aimerais bien voir cette petite série sur Amazon aussi, Amazon Prime.
Tu l'as toujours pas vu?
Non, bah, c'est comme je suis. Moi, j'aime bien lire avant de voir donc.
Ouais.
Du coup, c'est aussi ce qui me motive à la lire cette série, donc voilà,
Ouais,
je
faut
vais.
vraiment. C'est dispo, du coup, le tome 1, il est redispo en VF, c'est ça?
Moi, je me prends en VO, donc tu sais.
Mais petite question, est-ce que la VF est aseptisée ou ça passe?
Oh non, comment ça, aseptiser? Qu'est-ce que
Bah,
tu
on va
entends par
dire,
là?
parce que enfin, The Boys, c'est quand même. Après, j'ai vu la série télé, mais de ce que j'ai compris, c'est quand même trash, quoi, assez cru dans les propos. Donc, la question que je me pose, c'est est-ce que, avec la traduction notamment, ils ont un peu
Édulcorer tout ça?
édulcoré, ouais.
Oh, bah j'ai jamais lu d'épisode en VO, donc je peux pas comparer, mais en français c'est déjà bien trash, hein, donc
Ouais, moi
je pense que tu
je
peux.
l'avais lu en français, le premier à l'époque où je l'avais lu, quand il l'avait sorti pour la toute première fois en Marvel Select,
Ouais.
à l'époque où les Marvel Select étaient encore pas chers, puisqu'ils coûtaient quand même 7 euros de moins que maintenant, c'était trash. Ouais, j'en ai un
D'accord.
souvenir d'un truc assez. Oui.
Oui, y a pas
Parce
de.
que je... ouais.
Franchement, c'est sans
Parce que
limite, hein,
j'aimerais les
aussi
lire et je
bien.
suis en grosse hésitation, est-ce que je l'achète en VO ou en VF?
Eh ben sache que même avec le frais de port, il te coûtera moins cher en VO maintenant. Hein, parce qu'ils
En
sont
VO?
passés à 22 ou 23 balles, les tomes.
24
24,
en
oh pardon,
VF.
24, bah voilà.
Donc ça sera moins cher en VO.
Ouais, et
Ouais, je
si tu
pense.
vas du côté. Alors là, du coup, ça te coûtera un peu plus cher à cause des frais de port, ça vient d'Angleterre. Mais si tu vas du côté de Forbidden Planet, ils viennent de
Ouais.
ressortir ce qu'ils appellent les omnibus, donc c'est les équivalents des tomes français,
Ouais.
des trucs assez épais, à 18 livres, et ils sont signés par Derek Robertson.
Sérieux?
Voilà, ils ont toute la série. Voilà. Pour info, s'il y a
Ouais,
des
ça
auditeurs
va.
aussi qui sont intéressés, sachez que tous les omnibus sont dispo en deux covers différentes sur Forbidden Planet avec la signature de Derek Robertson à l'intérieur. Voilà.
D'accord. Ok. Bon, bah, bon à
Petit
savoir.
tips comme ça, voilà, 18 livres, puis je crois que les frais de port pour la France sont à 7 ou 8 livres, donc on est un poil
Ça
plus cher
passe.
que la VF, mais il y a moyen de les trouver sans signature pour moins cher sur
Parce
d'autres
qu'en
boutiques.
VF, c'est pas, ils ont ressorti, mais en souple, je crois, c'est ça?
Ouais.
C'est plus
Ouais,
en Deluxe.
c'est du souple aussi, hein, les omnibus de
Ouais, ça j'ai
Dynamite, hein,
vu.
c'est ça en VO?
Ouais, c'est ça.
Ouais.
Mais j'ai vu,
C'est du
mais
souple.
voilà, c'était la question, est-ce que ça vaut plus le coup VO ou VF, quoi.
Je sais pas, c'est dispo en VF, hein. Je vérifie là,
Mais
je
c'est
peux le
de
trouver.
nouveau dispo, mais pas pour longtemps,
Ouais.
je pense.
Bah, c'est ça, mais après, je sais que mon libraire peut l'avoir en VF, mais c'est moins cher en gros en VO, autant prendre la VO, quoi.
Et t'es sûr
Après,
de tout
évidemment,
avoir?
je vais sur le site de Panini Comics, et évidemment, hein, c'est à chier.
Bah, ça a été mis à jour en 1995 pour la dernière fois, donc
Ouais,
tu
c'est
peux pas
ça,
avoir d'infos.
c'est impossible de savoir les infos sur ça.
Et voilà, vous êtes mes 10 ans tout de suite, dès le
Ah, mais j'ai
premier
rien dit,
podcast de
tu vois.
2020.
Moi, j'ai rien dit, hein, tu vois. J'ai juste fait un
Faut
petit
être
post-là
positif.
sur le prix des Selects qui a grimpé du 8 balles, c'est tout. Moi,
Il
je.
faut être positif, c'est la nouvelle année, il faut.
Allez, on va être
Ouais.
positif du coup. On va continuer. Dans la série Clément rattrape ses classiques, tu vas nous parler d'un monument de l'année 2019, d'un magnifique graphic novel de Guillaume Saint-Gelin, sorti chez
Ouais.
Ankama au printemps l'année
C'est ça.
dernière, lui aussi PTSD.
C'est ça, PTSD. Donc là aussi, hein, effet Comic-Con oblige, je l'ai lu, même si j'avais l'intention de le lire, j'en ai profité pour me le faire dédicacer à la Comic-Con et tout. Bah, l'histoire, brièvement, hein, c'est tout simplement, il y a eu une guerre impopulaire, il y avait un personnage qui était une June, ça doit se dire June, je pense, qui était une tireuse des luttes, oula, d'élite, pardon, qui se retrouve sans abri et désespérée en colère, et en fait, tout simplement, qui a un syndrome post-traumatique. Alors, je l'ai lu parce que déjà, je me souviens bien qu'on l'avait vanté dans ses podcasts, dans les podcasts notamment. Si je dis pas de bêtises, il est nommé aux Comics Awards. Hein.
J'en parlerai juste à la fin de cette section,
Ouais.
oui.
Et aussi, pour un aspect particulier, j'étais curieux parce que ça traite du syndrome de stress post-traumatique, syndrome de stress post-traumatique que j'ai connu il y a plusieurs années. Donc, j'étais aussi curieux de voir est-ce que c'était bien retranscrit, est-ce que je me reconnaissais pour le coup, parce que s'il y a bien un ouvrage dans lequel je pouvais m'identifier en tant que lecteur, c'était celui-là. Et effectivement, c'est magistral. C'est magistral, les dessins sont sublimes, ça sert magnifiquement l'ouvrage. Et Guillaume Sagelin a compris parfaitement les implications du syndrome post-traumatique, c'est-à-dire aussi bien l'hypervigilance, aussi bien le côté psychologique, on est mal. où on va alterner justement les états psychologiques plus ou moins bien, disons le rejet, enfin bref, tous les aspects du PTSD sont traités et enfin c'est génial quoi, c'est un bijou. Il y a pas à dire, c'est juste un bijou. J'ai adoré. Bon, ça m'a rappelé des choses sur moi, ce que j'ai vécu, mais ça démontre justement à quel point c'est une œuvre magistrale quoi. C'est que ça nous touche. Notamment si on l'a vécu et voilà, enfin je crois il y a pas à dire quoi, c'est j'aurais dû le lire bien plus tôt, mais aussi par manque de temps surtout, mais c'est juste à lire quoi. Si déjà vous voulez vous intéresser au PTSD et avoir une idée de ce que ça peut impliquer, faut le lire quoi, parce que c'est je pense que c'est une œuvre qui doit faire référence dans cet aspect là
ouais, et puis il a un trait aussi
ouais, c'est génial ce trait, il est magnifique, les couleurs, tout est parfait, enfin c'est parfait.
Là aussi, le dessin peut laisser penser que c'est une histoire un peu plus joyeuse, etc. Voilà, légère.
Ouais,
des couleurs très chaudes.
Voilà, c'est des couleurs très, très chaudes. Et pas du tout, quoi. Mm-hmm. C'est tout l'opposé, quoi.
Après, tu as réussi à le choper, du coup, bien joué, parce que du coup, tu l'as chopé à Comic-Con, donc tu as une édition, du coup, dédicacée par Guillaume Saint-Gelin.
Ouais.
Voilà, c'est pas dégueulasse pour le découvrir non plus, tu vois.
Ah non, carrément. Et puis la dédicace et le personnage, c'est super sympa. Et dédicace à Guillaume Saint-Gelin, qui est hyper agréable, quoi.
Oui, comme la plupart des artistes ouais, et auteurs de la team Ankama, Label 619.
Carrément, ouais.
Globalement.
Et là, c'était... Oui, et puis ça me pousse à vouloir découvrir des choses dans le Label 619, parce que, en tout cas, ce titre-là est génial, quoi.
Eh bien, du coup, j'ai une news qui n'est pas sur le conducteur, mais qui m'a été rappelée du coup par le fait que tu parles de PTSD. Ankama Edition fête ses 15 ans cette année, et du coup, ils vont ressortir 10 albums dans l'année 2020 avec du coup des covers un peu spéciales qui ont été, enfin des éditions de couverture du coup spéciales. Il y aura 3 vagues, une en février, une en juin, une en octobre. La vague de février proposera notamment au niveau comics Label 119 le premier tome de Freak Squeal de Florent Modou. Pareil, ça c'est très bien. Donc avec une cover alternative pour les 15 ans, c'est sympa. Pour ceux qui aiment bien les mangas et le jeu vidéo, ils proposeront également le premier tome de Dofus en manga dans cette nouvelle cover.
Ça, c'est sympa ça.
Et puis en juin, du coup, pour vous faire un peu toute la liste, en juin vous aurez Doggy Bags qui sortira dans cette version alternative spéciale 15 ans, ainsi que PTSD justement. Et puis côté Label 619, vous avez Shangri-La aussi qui va arriver en octobre dans cette version.
D'accord.
Revue pour les 15 ans. Donc voilà, on en reparlera un petit peu durant toute l'année. Les covers vont se dévoiler petit à petit. Celle de Freak Squeal déjà est bien, bien cool. Et ben voilà, on a terminé pour la partie VF. On va passer à la partie adaptation. Clément nous fait son petit point Crisis depuis le début de la saison des séries télé du Arrowverse. La Crisis vient de se terminer cette semaine. Il me paraissait évidemment impossible que tu nous en parles pas. Mais avant, je vais revenir en arrière, puisque tu mentionnais les Comic Stories Awards et le fait que PTSD était nommé. Effectivement, les Comic Stories Awards sont en cours en ce moment sur le site. Les votes sont ouverts jusqu'au 26 janvier. Donc vous avez encore un petit peu de temps pour voter. Les 3 titres dont on vous a parlé dont on vous a parlé dans la première partie, sont plus ou moins liés aux Comic Stories Awards, puisque Kaiju Max est nommé dans la catégorie meilleur album en adaptation française, je crois. PTSD est nommé dans la catégorie meilleur one shot ou graphic novel. D'ailleurs, PTSD est un peu particulier puisque sa langue originale étant le français, nous avons fait le choix de le classer au même titre que des titres VO. Donc, et c'est pour ça qu'on a changé le nom. On appelle ça pas de la VO dans les Comic Stories Awards, mais des créations originales, du coup, pour mettre PTSD au même titre que d'autres one shot ou graphic novel qui ont marqué l'année. Donc, du coup, PTSD est nommé dans cette catégorie. Et puis The Boys est nommé côté adaptation. Voilà. Et puisque tu vas parler de Crisis on Infinite Earth, pour être complet, il est nommé quant à lui dans le Noward de la pire adaptation. Donc on va voir ce que toi tu en as pensé.
Ouais. Alors, donc là, la Crisis, ça y est, c'est terminé. On a eu les 2 derniers épisodes la semaine dernière. Bon, respectivement de Arrow, qui c'était son avant-avant-dernier épisode. Il reste 2 épisodes et la série se termine. Mm-hmm. Enfin. Et un épisode de Legends. Of Tomorrow. C'est un épisode intermédiaire. Bon, alors, avant ces épisodes, donc on avait le droit à 3 épisodes, ma foi, assez plaisants, même si c'est du CW, donc c'était hyper très cheap, des combats assez nazes, hein, faut bien l'avouer. Bon, manque de moyens, des trucs comme ils savent très bien faire dans les hangars avec des effets spéciaux douteux. Néanmoins, moi, ça me laissait une bonne impression dans le sens où tu sentais quand même que déjà ils mettaient leur cœur et qu'ils avaient vraiment envie de pousser le truc. Poussait le délire, quoi, où il y avait un tas de références à la fois à Batman 66, à Titan, bref, à tous les aspects télévisuels. Et ça, c'était un gros point positif, même si forcément, du côté scénario, c'était assez faiblard, même s'il y avait quand même des bons aspects. Donc là, on entame une quatrième, donc la partie 4 et la partie 5, donc, sachant qu'il y a eu la pause hivernale. Alors, il y a eu une énorme surprise.
Oh bah oui.
Une énorme surprise sur laquelle je vais revenir quand même à la fin. Clairement, c'était quasiment mission impossible de ne pas se faire spoiler, sauf si on fuyait les réseaux sociaux, notamment. Hein, moi, je me suis fait spoiler à cause d'Instagram, ou si on fuyait les spécialisés.
Bon, on peut l'aborder maintenant, hein, cette surprise.
Tu peux l'aborder ?
Oui, tu t'es fait spoiler par les réseaux sociaux.
Ouais.
Mais moi, ce que je trouve super,
ouais,
c'est
non, mais
que
voilà.
Personne ne le ne savait.
Ouais, et donc. Spoiler, hein, fuyez si vous n'avez pas vu, si vous ne savez pas de quoi te parle. C'est une réussite magistrale, j'ai envie de dire, parce que ça ne sait, personne ne le savait, personne n'y s'est attendu. C'est l'apparition de Ezra Miller, donc The Flash du DCI
Extended Universe,
dans la série The Flash. Et ça, clairement, c'est bluffant, c'est une surprise, c'est voilà, réussite, et franchement, c'était inespéré. Et moi, j'y croyais vraiment pas qu'ils fassent le lien entre l'univers télé, ce qu'ils avaient très bien fait jusqu'à présent, et l'ancien, en gros, certains films cinéma, et l'univers ciné, disons, actuel. Et là, ils l'ont réussi. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les langues se sont déliées et qu'on a appris les conditions dans lesquelles ça s'est fait. C'est qu'en fait, et c'est là où c'est sans doute très intéressant, c'est qu'en fait, c'est non pas le Warner Bros. Television qui a demandé à ce que Ezra Miller apparaisse, mais c'est bien la Warner Bros. Donc côté cinéma, qui a fait la demande directement aux producteurs de Arrow, Flash et autres, qui ont accepté, et ça s'est fait en fait, ça s'est fait dans le plus grand secret. C'est une demande vraiment du côté Warner, du côté cinéma. Et c'est là où c'est intéressant, parce que ça peut vouloir dire, d'une part, bah, qu'il y a une envie de la Warner de montrer, de, voilà, que Ezra Miller, c'est toujours le The Flash du cinéma, et peut-être de faire un pont, de pousser un pont entre l'univers ciné et l'univers télé. Et donc, sans rentrer dans le détail du scénario, parce qu'il y a des aspects assez foireux et autres, la réelle réussite, c'est qu'ils ont poussé le truc jusqu'au bout et qu'ils ont réussi à faire un lien, tout simplement, un réel multivers entre univers série et univers télé.
Pour continuer sur le caméo, parce que je sens que tu vas passer à la suite, Jim Lee a quand même joué un sacré rôle aussi dans l'histoire. Il a vraiment joué le rôle d'intermédiaire et a quand même bien aidé à ça. Ça a été aussi dit après, révélé dans des interviews, etc. Et effectivement, ce qui est intéressant aussi pour l'univers cinéma, c'est que du coup, ce pont et l'existence de cette crisis peut justifier le fait qu'on se retrouve avec un nouvel acteur dans le costume de Batman. Mais que Flash reste le même, etc. Enfin, ils ne le feront peut-être pas, mais en tout cas, si on regarde tout ça dans un ensemble un peu cohérent, etc., on sait que cet univers a été impacté par Crisis on Infinite Earth, que l'univers, le multivers qui ressort de tout ça derrière a complètement changé, n'est plus le même du tout. Tu en parleras après, je pense. Du coup, ça peut servir de porte de sortie sur certaines choses qui étaient un petit peu difficiles à expliquer. Pourquoi tel acteur reste, pourquoi tel autre s'en va, etc. Donc, effectivement, de ce côté-là, c'est bien joué. Et puis, puisqu'on parle des caméos, je vais quand même saluer celui de Marv Wolfman, hein, quand même.
Ouais, carrément.
Voilà. Et je te laisse conclure.
Il y a ça, et c'est vraiment une réelle réussite. Il y a la réorganisation de l'univers, de DC Multivers, plutôt bien fait. Après, clairement, on l'avait vu venir, hein, spoiler, le fait que Oliver Queen, donc Green Arrow, devienne The Spectre, on s'est dit, bon, avec les pouvoirs du Spectre, il va un peu tout refaire à sa façon. Et là où ce qui est intéressant, parce qu'on pouvait se demander quels vont être l'impact, c'est que ça offre des perspectives intéressantes, puisque du coup, l'univers est remodelé. Donc, vous avez le Earth Prime, qui sont en fait les séries du CW, Batwoman, Supergirl,
Arrow, les légendes,
Black Lightning aussi. Donc là, du coup, ça enlève l'aspect, c'est-à-dire que maintenant, Supergirl, et d'ailleurs, ça a donné des scènes assez marrantes. Moi, j'ai bien aimé pour le coup le fait que, bah, du coup, Supergirl et Flash et The Flash se rendent compte qu'ils sont sur la même planète, donc ça, c'est excellent. Et il y a un autre aspect, moi, qui vraiment, j'espère qu'ils vont le pousser, bah, du côté de Lex Luthor. où, et ça, j'ai trouvé bien joué, parce que clairement, moi, je maintiens qu'un des meilleurs personnages du CW, c'est le Lex Luthor. Moi, j'adore ce Lex Luthor-là, notamment par rapport à ce qu'on, la merde qu'on a eue au cinéma, où là, bah, le Lex Luthor, évidemment, hein, c'est Lex Luthor, il en a profité, il est appelé. Non seulement ça va devenir, entre guillemets, le boss de Supergirl, et aussi, bah, il est perçu comme gentil. Donc, ça offre des perspectives intéressantes, et effectivement, ça peut être une réelle porte de sortie pour la Warner dans le sens large, où ça peut expliquer certains changements. Donc finalement, il y a eu des aspects moisis, clairement, du point de vue scénario et blabla, mais mine de rien, j'avais vraiment peur que ça soit un gros pétard mouillé, parce que clairement, avec la CW, ça nous a plus ou moins habitués à ça, et bah, ils se ressortent vraiment avec les honneurs, et au moins, moi, j'ai le sentiment de ne pas avoir été pris pour un abruti, et que c'est vraiment une crise, disons, dans la philosophie du terme, de ce qu'on a pu connaître dans le comics.
Ouais, je vais juste revenir sur deux choses avant qu'on passe à la suite. Par rapport à Lex Luthor, tu dis qu'il est perçu comme gentil. Après, ça restera à être expliqué dans la série Supergirl, mais il est tout à fait possible que ce Lex Luthor soit celui de Earth 3, dans lequel tout est inversé, et que parce que sur Earth 3, c'est la Terre de la Ligue, enfin de la Justice League version méchant, j'ai plus le nom en VO, où le seul héros de cette Terre-là est Lex Luthor, Marie Lois Lane, etc. Donc c'est t'as peut-être raison. Celui-là qui a survécu sur cette Terre et pas peut-être. Le Lex Luthor qu'on connaissait. Ça reste à expliquer. Après, oui, effectivement, plutôt plaisant pour tous ces caméos. Pour tout le reste, ça reste de la soupe CW, ok. Mais enfin voilà, on a quand même eu un festival de caméos, de liens entre toutes les productions d'ici depuis
ça,
le début.
C'est fort.
Le pont avec le cinéma est aussi fait avec des images du film Green Lantern qui apparaissent sur la fin du dernier épisode. Enfin, il y a plein de trucs, c'est une orgie. C'est une orgie d'hommage, donc ne serait-ce que pour ça et pour la réorganisation mine de rien réussie de l'univers, c'est plutôt bien joué. Je pense qu'ils ont réussi leur pari, ils en sont contents.
Carrément. Et ça fait écho, et c'est ça qui est intéressant, à des propos de Geoff Jones il y a 6 ans. Et de Ezra Miller, ce qui est ressorti, c'est qu'en gros, il avait sous-entendu qu'on pouvait avoir des ponts entre l'univers télé et cinéma. Et c'est ce qui a été fait. Après, peut-être qu'il ne le pensait pas, mais...
Il s'y attendait peut-être pas encore, oui.
Ouais, mais voilà. C'est réussi.
Même si ça fait 9 saisons qu'on nous dit que Oliver Queen va devenir Something Else, et enfin, il est devenu Something Else.
Non. Après, à voir, moi, je suis un peu curieux, là, parce qu'il reste 2 épisodes pour Arrow. Donc, en gros, l'épisode de cette semaine... Enfin, de la semaine prochaine, là, à l'heure où on enregistre, c'est un épisode qui introduit le spin-off qui, à mon avis, va pas durer, clairement pas. Et il reste après l'épisode final de la série. Donc, mais c'est une belle fin. Pour le moment, ce qui se profile, c'est une belle fin pour Arrow. Donc vraiment, sincèrement, j'avais peur que ce soit casse-gueule pour la crisis. Et au combien, malgré les défauts, c'était ultra plaisant. Quoi. Voilà. Parce qu'au moins, j'ai retrouvé tout ce que j'aimais dans cet aspect de comics-là. Voilà. Et puis, bon, il y a l'aspect Justice League aussi à la CW qui était inattendu, mais qui était plaisant aussi. Même si c'est la Justice League du pauvre.
Ouais. Bon, ça nous aura donné aussi quelques jolies photos entre Ezra Miller et Grant Gustin. Donc, c'est cool.
Oui,
et puis voilà, bon, bah, en tout cas, pour ce qui nous concerne au Comic Stories Awards, on n'est pas les seuls à voter, parce qu'on est une douzaine de personnes à avoir établi les listes des nommés. C'est nommé dans la pire adaptation tout de même, donc
c'est méchant.
C'est peut-être un peu dur, mais en tout cas, voilà, c'est le cas. On ne va pas refaire le vote. En tout cas, vous, n'hésitez pas à voter. Cette nomination pour la pire adaptation, il est quand même aux côtés de bien belles pépites comme Dark Phoenix, comme Hellboy et autres Captain Marvel. Donc voilà, je suis pas sûr que du coup il gagne sa catégorie et c'est pas plus mal.
Ouais, carrément.
Allez, on va passer au Comics VO cette fois-ci, trêve d'adaptation. Comics VO avec une petite palanquée d'annonces que Boris nous a dénichées ici et là. C'est surtout des annonces de nouveaux projets pour le printemps notamment, et il y a pas mal de choses.
Oui, alors on va faire vite parce qu'il y en a un petit paquet, je vais juste les annoncer puis on commentera si on veut. Mais... Donc la première, c'est la nouvelle mini-série pour l'instant, alors peut-être qu'elle deviendra un going après, de John Allison et Max Harin, c'est-à-dire Giant Days, notre chouchou, donc qui revient en mars avec un premier numéro. La série s'appellera Wicked Things, et donc c'est une précommande directe. C'est évident, avec tout le bonheur qu'on a à lire Giant Days.
On va parler du coup, on va parler de cela maintenant, effectivement. On va se lancer la semaine prochaine dans une semaine spéciale, Giant Days et John Allison, donc à partir du samedi 25 janvier. On a eu la chance d'avoir Monsieur John Allison qui a bien accepté de répondre à nos questions. Tu as pu échanger avec lui et faire une interview de lui, et du coup, elle arrivera sur le site... juste avant la sortie de la nouvelle version de Giant Days en VF. On vous parlera aussi du tome 7 qui est inédit pour le moment en français, de cette nouvelle version intégrale, et puis d'autres choses liées à Giant Days. Mais en tout cas, voilà, l'interview de John Allison arrive prochainement chez nous, et ma foi, je pense que certaines de ces réponses vont vous faire un petit peu réagir. Enfin, en tout cas, moi, j'ai été interpellé par certaines réponses. C'est assez intéressant de lire ce qu'il a à dire de son travail et de ses projets.
Ouais, c'est assez surprenant, effectivement.
Ouais.
Des réponses auxquelles on s'attend pas.
Et puis,
surtout quand on lit la série.
Ouais. Et puis, qui dit semaine spéciale, dit aussi pour nous le plaisir de travailler en collaboration avec Aquileo, c'est de pouvoir vous proposer un jeu concours qui permettra à trois d'entre vous de gagner cette fameuse intégrale de Giant Days, tome 1, qui sort fin janvier le 31. Donc du coup, on en a trois en jeu sur le site, donc n'hésitez pas à aller visiter l'article et puis à remplir juste le petit formulaire, vous avez deux questions à répondre et vous êtes inscrit au tirage au sort et du coup, vous recevrez peut-être de la part d'Aquileo un de ces trois tomes qui sont mis en jeu. Le concours est valable jusqu'au 30 janvier. Et on continue les annonces.
Ensuite, un nouveau graphic novel de Ed Brubaker, Sean Phillips et Jacob Phillips. Pulp. Alors, on n'a pas trop encore d'indications, mais ça sent bon le western un peu, cette ambiance. Donc, c'est pour le mois de mai. Donc là aussi, moi j'irai voir hein, directement. Je suis assez fan de ces auteurs. Ensuite, pour les amateurs de Chew et d'Outer Darkness, donc j'ai déjà fait la review sur le site.
Oui.
Space Opera de John Lehman, très sympa, assez fun. Il va y avoir un petit crossover entre les deux séries. Donc John Lehman, Rob Guillory et Afu Chan, le dessinateur d'Outer Darkness, qui vont proposer... Alors, je sais plus en combien de parties.
Trois parties.
Trois parties, oui, c'est ça. Voilà, un petit mini, très mini série qui va mélanger les deux univers. Donc, on aime les deux. Enfin, moi, j'aime les deux. Donc, j'irai voir ça aussi. C'est pour le mois de mars.
Assez inattendu de voir Chew revenir, du coup, dans un projet, encore plus dans un projet de crossover avec une autre série de Lehman. Mais cool.
Ouais, ça donne envie. Ensuite, toujours pour alors, il y a beaucoup de choses pour le mois de mars. Hein. Mois de mars, Maxwell Prince et Tyler Jenkins proposent une série chez Boom, King of Nowhere. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Maxwell Prince, c'est le scénariste de Ice Cream Man, donc je fais la pub fréquemment. Une série totalement déjantée.
Et dont le dessinateur nous a aussi accordé une interview qui est disponible sur le site.
Tout à fait, Martin Morazzo. Ouais. Voilà, qui est consultable, tout à fait. Et le dessinateur Tyler Jenkins, donc c'est lui qui a dessiné Grass King de Matt Kint, avec ses belles aquarelles. Donc au moins deux bonnes raisons d'aller jeter un œil à cette série.
Une mini en 5, je crois.
Ça, j'ai pas vérifié, peut-être. Oui, c'est une mini, oui, effectivement. Oui. Ensuite, un projet là assez particulier, mais bon, les auteurs donnent envie aussi. Donc c'est Robert Kirkman et Chris Samnee. Qui a annoncé une nouvelle série qui s'appelle Firepower chez Image en mars. Alors c'est assez, assez particulier puisque c'est un récit d'arts martiaux avec une quête personnelle du personnage principal qui va retrouver ses parents biologiques en Chine et qui va tomber sur un temple Shaolin où on apprend à produire des boules de feu avec ses mains. Donc là, tout de suite, comme ça, l'histoire me... Bof, moyen.
Moi, elle me fait penser à Iron Fist, mais bon, après...
Voilà, c'est bon. Après, la mise en place est un peu originale, puisqu'il va y avoir d'abord un TP à 10$ qui va servir de prélude à la série, juste avant le Free Comic Book Day 2020, où il y aura le numéro 1 gratuitement. Donc, on va dire, ils font ce qu'il faut pour que les gens aillent jeter un œil.
Ouais, belle façon de lancer une série, ouais,
voilà.
Effectivement.
Voilà, c'est original. Bah, Robert Kirkman est un peu fan de soit des lancements, soit des fins un peu originales.
Ouais, il cherche vraiment à surprendre à chaque fois. On se rappelle de Die qui était sorti à la surprise générale sans avoir été annoncé. Même de. Comment s'appelle-t-il ? Oblivion Song, dont le premier tome était sorti chez nous avant même qu'il soit fini d'être publié en VO. Donc voilà, il y a pas mal de choses comme ça avec Robert Kirkman. Et il a envie en tout cas de créer des événements à chaque nouvelle série.
Voilà.
Donc c'est sympa.
Die 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 qui revient là, hein, en février ou janvier, je sais plus, en VO. Ensuite, Tom King, dont on a. Parfois dit du mal, à juste raison, à juste titre, revient dans une maxi-série en 12 avec Mitch Gerhardt et Evan Shenner pour Strange Adventures. Donc ça sera sans doute sur le même format que Mister Miracle en 12 parties au mois de mars. Mister Miracle, un gros coup de cœur pour moi en 2019. Donc, je vais au moins aller voir le premier épisode et puis on verra comment c'est construit. En espérant que ça soit pas.
Sur ces projets-là, il est bon quand même. Hein.
En plus, ouais, normalement, il est bon.
Mitch Gerrard, de Mister Miracle. Ça sent quand même assez bon comme projet.
Ouais, on espère qu'il il va retrouver la foi en son travail, ouais. La flamme. Après Heroes in Crisis et la fin de Batman, assez décevant quand même. On arrive au bout, bientôt. Jonathan Hickman et Mike Huddleston qui vont proposer une nouvelle série Decorum chez Image. Alors ça a l'air d'être de la SF un peu légère, mais bon, avec Jonathan Hickman, il faut se méfier. Ça peut être vite compliqué.
C'est rarement léger, ouais.
Oui, voilà. Bon, c'était présenté un peu comme ça, mais bon, c'est peut-être un subterfuge. Mais bon, les quelques images qu'on a pu voir donnent envie quand même. Ça a l'air d'être déjà assez joli. Donc là aussi, acheter un œil. Bon, il est déjà pas mal occupé avec ses X-Men. On va voir s'il a le temps de proposer quelque chose d'intéressant.
Bah, ça sent malheureusement la série indé qui va commencer et qui va rentrer rapidement en pause pendant longtemps, très très longtemps.
Ouais, il est un peu spécialiste hein, sur certaines séries.
Et clairement, avec ce qu'il est en train de faire chez Marvel et les X-Men, moi c'est pour ça que je vais pas sur Decorum, hein, parce que j'ai pas envie que ça s'arrête. Voilà, je vais attendre que sorte un TP, puis je vais voir si ça continue, et si vraiment ça continue, là je prendrai des TP. Mais il nous a fait le coup plusieurs fois. Voilà.
Ouais, c'est pas. Ouais.
Celle-là, je la sens pas.
Que ce soit, une bonne idée. Ensuite sur Batman, alors c'est une news un peu plus ancienne mais qui fait plaisir quand même. Batman a été repris par James Tynion-Ford avec au dessin Tony Daniel et Guillem March. Et un troisième artiste a été annoncé, et là ça fait plaisir, c'est Jorge Jiménez, pardon, qu'on aime beaucoup, qui a fait Super Sons, là, qui a fait la Justice League et qui a un trait vraiment très très sympa, quoi. Donc on a hâte de voir ces planches de Batman.
Numéro 92, je crois. De tête.
De tête,
c'est ça. Et du coup, un nouveau vilain, The Designer, qui a été teasé pour l'occasion.
Ouais, voilà. Et enfin, pour finir, alors pour l'instant, ce ne sont que des petits teasings par-ci, par-là. Il n'y a encore rien d'annoncé, rien de sûr, mais on en parle quand même, parce que ça donne vraiment, vraiment envie. Un nouvel éditeur indé ferait son apparition. Pour l'instant, le nom de code est peut-être le nom final, mais bon, je ne sais pas, c'est Bad ID. Donc, qui serait lancé par Dinesh Shamdasani et Warren Simmons, ce qui ne doit pas parler à grand monde.
Mais
c'était les grands ordonnateurs de la relance Valiant en 2012, dont on se souvient avec émotion quand même, hein, avec des très grandes séries.
Et avec regret et...
Oui, bah oui. Oui, effectivement, oui. Et en plus, qui a priori s'associerait à des artistes qui ont fréquenté Valiant à cette époque, Matt Cain, Joshua Dysart, Lewis LaRosa, Thomas Chiorello, etc.
Il y a le carnet d'adresse là.
Voilà, je pense qu'ils se sont redonné un petit coup de fil et se sont rappelés la bonne époque.
Clairement.
Et voilà, s'ils lancent des projets ensemble et que c'est à la même qualité que les séries Valiant de 2012, on signe direct. C'est vraiment, voilà, ça donne envie. Après, bon, pour l'instant, il n'y a pas d'annonce officielle, il n'y a pas de. Voilà. Rien de très clair, mais pour le bon.
Ouais, du teasing un peu mystique pour le moment, mystérieux plutôt pour le moment. Mais voilà. Et ben voilà, ça nous fait pas mal de news, tout ça, et d'annonces. Il y a un printemps qui s'annonce.
Ouais, copieux.
Chargé, ouais. Chargé. On va commencer les reviews VO. Et j'ai choisi de vous parler de quelque chose que j'ai lu, enfin que j'ai relu puis lu, parce qu'il y a de l'inédit là-dedans pour moi. Crossover CW oblige, j'ai eu envie de me replonger dedans. Mais cette fois, enfin j'ai lu Crisis on Infinite Earth, évidemment déjà. Mais j'avais envie de me refaire la totale tie-in compris. Donc ça fait un gros pavé, un gros bloc à lire. Donc du coup, j'ai décomposé ça en chapitres. Et je les lis du coup numéro de la série principale, puis tous les tie-in qui sont plus ou moins liés. Et après, je passe au numéro suivant pour faire un peu des chapitres. Donc là, j'ai lu le chapitre 1 en janvier. Je pense que ça va m'occuper toute l'année. Donc le chapitre 1, pour moi, c'est Crisis on Infinite Earth, chapitre partie numéro 1, donc de Marv Wolfman et Perez, plus 3 épisodes de All-Star Squadron, les 50 à 52, par Roy Thomas, Mac Clark et Arvel Jones, un épisode d'Infinity Inc., le 18, par Roy Thomas encore, avec Dan Thomas et Todd McFarlane au dessin, et The Fury of Firestorm, le numéro 41, par Gary Conway et Raphaël Kayanan. Donc ça fait 6 épisodes pour ce chapitre 1, c'est un des plus légers par rapport à ce qui m'attend sur la suite. Et voilà, ça m'a fait plaisir de me replonger d'abord dans ce premier épisode de Crisis, donc de 1985, hein, 35 ans cette année, comme moi, tiens. Du coup, ça m'a fait bien plaisir de revoir tout ça, et puis de repenser un peu du coup à l'adaptation, hein, puisque effectivement tout commence par le monitor qui prépare ses plans, qui sait que les univers sont en train de s'effondrer les uns après les autres, et qui du coup missionne une certaine Layla. Pour devenir faire éclater ses pouvoirs et devenir le Harbinger se rendre sur les différentes terres encore en vie pour pouvoir rassembler certains héros et les ramener auprès de lui pour pouvoir peut-être empêcher cette vague de destruction d'atteindre tous les univers parallèles du multivers. Et puis pendant ce temps, effectivement, on voit Earth 3, Earth 4, et plusieurs terres comme ça être complètement annihilées, avec un témoin qui assiste à tout ça complètement impuissant, qui est Paria. Donc des choses qui, si vous n'avez vu que l'adaptation et ne connaissez pas le comics originel, forcément, voilà, des noms comme ça vous parlent. Donc voilà, on assiste à tout ça, et puis les héros sont rassemblés. Alors ils font partie de Terre 1 et Terre 2, ces héros. On a le roi Solivar de Gorilla City, on a le Firebrand de 1942 sur la Terre 2, on a le Psycho Pirate, on a qu'est-ce qu'on a encore? Firestorm évidemment, Killer Frost, enfin voilà, pas mal de personnages des Terres 1 et 2. Et puis les tie-in que j'ai lus, donc les trois épisodes d'All-Star Squadron 51-52, c'est peut-être ceux de tous ceux que j'ai lus qui sont le plus liés vraiment à la Crisis, hein, puisqu'on voit le Harbinger arriver et du coup recruter sur cette Terre 2 qui est la Terre de la Justice Society, recruter Firebrand. Et puis ça impacte forcément toute la bande et la Justice Society et le All-Star Squadron avec pas mal de petits événements comme ça qui sont assez sympas à voir, sachant qu'il se passe en 1942 en pleine guerre mondiale. Donc c'est plein de combats contre des nazis, c'est plein de vieux héros des années 40 mais écrits en 1985, donc c'est assez sympa. Infinity Inc, franchement, j'ai eu un peu de mal, c'est complètement écrit sous drogue ce truc-là, c'est pas possible. Mais on voit, alors le tie-in très lié, hein, très très léger, hein, une page ou deux, le Harbinger qui vient et qui recrute Obsidian pour l'emmener chez le Monitor, et basta, quoi. On s'arrêtera là pour le tie-in. Et puis côté Firestorm, c'est un peu plus lié là cette fois-ci, et on voit comment le Harbinger, comment Layla, du coup, réussit à ramener Firestorm dans la bande du Monitor avec l'aide du Psycho-Pirate. Un numéro lui aussi assez sympathique. Donc moi je vais continuer après, hein, je vais me faire chapitre par chapitre, gros bloc par gros bloc, cette crise avec tous ces tie-in. Ça sent bon les années 80, tout ça, et la remarque que j'ai à faire, c'est que quand même, hein, dans un épisode il s'en passe des choses, hein. J'en ai mis du temps pour lire tout ça. Hein. Un épisode, on a l'impression de lire un TP écrit en 2020, quoi. C'est vraiment dense, c'est vraiment riche, il se passe beaucoup de choses. On assiste à la destruction de deux terres dans un seul numéro, le numéro 1 de Crisis, plus le Harbinger qui envoie Layla, enfin le Monitor qui envoie Layla, plus le recrutement, enfin tout ça tient dans un numéro double, quoi. Alors qu'aujourd'hui il nous faudrait au moins un TP pour raconter ça. C'est assez dingue. C'est assez
Mais
dingue.
ça, c'est pas du Tom King, quoi. Ah mince, encore.
Oui, ou du Bendis ou plein d'autres. Enfin voilà. Enfin maintenant, on écrit quand même des récits beaucoup moins denses et beaucoup plus rapides à consommer. Voilà.
C'est vrai, il y a des scénaristes quand même qui arrivent à, comme James Stanley Ford par exemple, qui arrivent quand même en 20 pages à mettre pas mal de choses.
Oui, il y en a quelques-uns encore. Oui.
Alors peut-être c'est peut-être trompeur parce qu'il y en a qui justement mettent pas grand-chose, donc on a l'impression qu'il y a énormément de choses. Mais bon, il y a quand même des séries ou enfin des scénaristes qui arrivent à construire des histoires assez denses. Mais ça n'a rien à voir effectivement avec cette époque où, même en termes de texte, de pavé de texte, c'est.
Ouais, les bulles de pensée aussi, tout ça. Enfin bon,
Voilà.
ça sent vraiment bon les années 80, quoi. Clairement, c'est le numéro que j'ai lu. Voilà. Et c'est franchement, ça m'a bien plu de replonger là-dedans et de découvrir du coup des épisodes du Star Squadron. Bon, Infinity Inc. un peu moins, clairement. De Firestorm aussi. Enfin voilà. Donc je m'attaquerai au chapitre 2 prochainement, du coup, pour continuer. Peut-être que je vous en reparlerai si un des chapitres me marque particulièrement. Notamment le 7 avec la mort de Supergirl, le 8 avec celle de Flash. Enfin voilà, il y a quand même pas mal de choses qui arrive et qui risque de me faire réagir forcément. Alors du coup, parler de quelque chose de super dense, de bien écrit, avec beaucoup de texte, et
Voilà.
passer sur ce dont tu vas parler, Clément, effectivement, là,
Ouais.
on va
On
sentir
change
un
de braquet là.
fossé, on change de braquet, clairement,
Ouais.
et je pense pas que tu vas dire du bien de ça.
Ouais, alors, sur le conducteur, c'est marqué Batman, donc je vous parlais de Batman's Grave 2, mais en fait, je pourrais parler du 3, parce qu'en fait, c'est juste la même chose, hein. C'est-à-dire, on a une histoire, on sait pas trop où on va. Et déjà, le 2, je crois que c'est la critique qu'on avait faite, je sais plus si on l'avait fait en podcast, mais en fait, il se passe pas grand-chose, c'est que du dessin, un peu de dialogue. Donc, je me suis dit, bon, on va voir, hein, vu que j'ai commandé le 3, je vais quand même lire le 3. Et en fait, je me suis dit, je commence à lire, je dis, oh, mais c'est un délire, j'y vais pas nous faire le coup. Je commence, je continue, et il se passe rien. On n'a que des scènes de combat, il se passe rien. Donc, conclusion, eh ben, Batman's Grave, c'est de la grosse merde. Il n'y a pas d'autre mot. Il se passe rien. C'est ce qui se fait de pire, en fait. On nous a vendu ça comme enfin, c'est quand même pas n'importe qui. C'est Hitch derrière, si je dis pas de conneries.
Et Warren Ellis surtout.
Oui, et
Et
Warren
Warren
Ellis, oui.
Ellis, donc c'est pas non plus n'importe qui. Et tu le sais, tu dis putain, mais ils se foutent de notre gueule, quoi.
Alors, moi, j'ai commencé, j'ai lu le 1, j'ai lu le 2, et après, je me suis arrêté. Alors, je dirais pas que je serais pas aussi sévère que toi, on va dire, mais ça se lit pas, c'est pas une écriture single, quoi. Ça se vend pas en single. Il aurait fallu qu'il
Non.
fasse un graphic novel, voilà, ou le sortir, voilà, sous ce format-là. Parce que l'ambiance, le Batman détective, j'ai trouvé que c'était intéressant, notamment dans
Oui.
le premier épisode, c'était vraiment sympa. Mais le problème, c'est que, voilà, le deuxième épisode, sur 20 pages, il y a 10 pages où c'est de la baston, effectivement. Donc, bon, c'est joli, c'est bien dessiné. Ça, Hitch fait du bon boulot. Mais sur un épisode de 20 pages, il y en a avoir la moitié où il y a que ça. Et puis ensuite, la fin, bah, il lance vaguement une nouvelle enquête, mais ça le cliffhanger, il n'y en a pas. En fait, je crois que Warren Ellis, il s'en fout complètement d'écrire pour du single. Il écrit son histoire et puis après, il découpe. Voilà, il compte les pages et puis il s'arrête. Donc, moi, je retenterai sans doute en TP à la fin quand ça va sortir parce que l'ambiance m'avait bien plu, le côté détective aussi. Mais par contre, bon, bah, dépenser 4
Ouais.
dollars pour rien, pas la peine, quoi. Donc, j'ai arrêté le single.
Ouais, j'ai arrêté aussi après le deuxième, comme toi, du coup. Ce qui m'avait complètement déconcerté, cet épisode 2. Mais enfin, ouais, j'avais bien aimé ce premier. Je trouvais ça bien écrit. Je trouvais ça intéressant. Une autre façon de nous raconter Batman qu'on n'avait pas vu depuis quelques temps. Bah, ça me plaisait bien. J'aime pas trop le style de Brian Hitch. Je dois être un des rares, mais enfin, je trouve pas ça beau. Enfin, c'est aussi pour ça que le numéro 2 m'est tombé des mains. Parce que enfin, moi, Brian Hitch qui dessine des scènes de combat, j'y arrive pas. Je trouve ça.
Ouais.
Je sais pas. Je trouve.
C'est pas fait.
J'aime pas. Vraiment. Je peux pas, je fais un blocage. J'avais déjà fait la même sur la Justice League. Enfin, voilà. Moi, dès que je le vois au dessin, bah, malheureusement, du coup, ça engage mal le numéro. Encore plus le numéro 2. Du coup, le numéro 1, j'avais pas trop été perturbé. Donc, j'ai arrêté aussi. Je regarderai quand même peut-être pour du TP. Parce que, quand même, mine de rien, si on regarde un peu les avis ailleurs que chez nous, bah, ils sont plutôt bons.
Ah ouais?
Et ouais. Et les critiques sont quand même plutôt pas mauvaises, donc
Ouais.
effectivement, Ellis s'en contrefout d'écrire pour le single, ça c'est clair. Il a écrit un graphic novel que DC a choisi de sortir en 12 parties, mais clairement, on n'est pas dans un truc avec des cliffhangers, des trucs, des machins. Enfin, les codes du
Non.
single clairement ne sont pas là, et Warren Ellis n'a rien à battre de tout ça. Il l'a déjà fait sur sa dernière série chez DC, la même chose. Donc,
C'est
oui,
laquelle
effectivement,
déjà?
c'est à lire en TP, bah c'est laquelle bah j'ai un trou, c'est une série dans le
C'est
label
Wildstorm, non?
oui, Wildstorm, voilà, c'est ça.
D'accord.
Ouais, en TP ou moi j'attendrai peut-être même la VF. Si Urban fait une. Souvent ils font des belles éditions pas trop chères quand c'est des 12 épisodes comme ça.
Faut
Je
voir,
pense
ouais,
que ça
faut
vaut.
voir.
Ouais.
Allez, on
Enfin voilà.
enchaîne sur quelque chose qui est lié à The Boys. Boys?
Non, pas
Non, ah, je croyais
The
que tu avais que tu avais mis dans le conducteur un lien avec la
Ouais.
VO.
Non, avec l'autre Terre qui est sortie chez Delcourt.
Ah,
Alors
ok.
The Wrong Earth en anglais. Que j'avais chroniqué il y a quelques mois, et donc j'étais bien content de voir que ça arrivait chez Delcourt. Donc c'est les comics Aoi, un éditeur indépendant géré par Tom Peyer, qui est aussi le scénariste de cette série. Donc bon, j'ai fait une review sur le site, donc je ne vais pas revenir dessus, vous pouvez l'acheter un oeil. Moi je conseille fortement cet univers de The Wrong Earth, l'autre Terre. Donc le pitch général, c'est en fait c'est une sorte de parodie, mais c'est pas de la grosse pignole sans fond. C'est de la parodie de super-héros. Alors il y a deux Terres, Terre Alpha, Terre Oméga. Sur la Terre Alpha, c'est un super-héros du type un peu l'âge d'or des super-héros, assez naïf, on va dire, entre guillemets. un super-héros très positif qui collabore avec la police, qui apprécie tout le monde et qui combat les vilains et qui s'en débarrasse de façon un peu facile, quoi. Il y a une certaine naïveté. Et en parallèle, il y a une autre Terre, Terre Oméga, où là, le même super-héros, lui, est un vigilante qui agit assez violemment, qui est en marge des forces de police, voilà, et qui, c'est du dark comics, quoi, du dark super-héros. Et donc, on suit les deux personnages, les deux super-héros qui portent le même nom, donc Dragonfly. Et dans le tome qui est sorti chez Delcourt, en fait, ce qui se passe, c'est que par un jeu de miroir et de portail, ils se retrouvent chacun sur la terre de l'autre, et forcément, ça fait des étincelles, et ça fonctionne super bien. Et donc, suite à cette première mini-série, là, Tom Payer a lancé une deuxième mini-série qui s'appelle Dragonfly et Dragonfly Man. Et donc là, c'est le même principe un peu, donc on les retrouve chacun sur leur terre et combattent un même vilain qui s'appelle Devilman, et là aussi à leur façon, c'est-à-dire sur la terre Alpha de façon assez naïve et assez positive, et sur l'autre terre c'est assez violent. Alors il y a le jeu avec le sidekick, puisqu'ils ont chacun un sidekick, donc effectivement on pense beaucoup à Batman et Robin. Sur la terre Alpha, le héros Dragonfly lui sert de guide à son sidekick, est très positif avec lui, alors que de l'autre côté, il est très négatif, assez méprisant et le traite pas forcément très bien. Voilà, donc il y a ce côté pile-face, jour-nuit, qui est assez intéressant. Alors, moi, j'ai lu, il y a les trois numéros qui sont sortis, j'ai lu que les deux premiers pour l'instant. Ça, c'est moins, pour l'instant, moins sympa que la première mini-série. Ça reste sympathique. On sent bien qu'il y a un moment où ça va se télescoper. Il va y avoir un petit souci et là, ça devrait être intéressant. Bon, ça se lit, c'est sympa, c'est toujours parodique. Voilà, moi j'aime bien. Alors au dessin, c'était sur la première mini-série, c'était Jamal Eagle qui avait un trait assez rond et hyper efficace. Là, c'est Peter Krause. C'est moins rond, c'est un peu plus sec et un peu moins fun, mais bon, c'est sympa, ça reste sympa quand même. Voilà. Alors j'ai pris en single parce que voilà, j'aime bien un peu soutenir aussi les éditeurs indépendants qui sortent du lot. Peut-être plutôt si vous êtes intéressé à attendre le TP, mais moi j'aime bien cet univers, ça change un peu, c'est du super-héros mais différent, donc sympa, voilà, à suivre.
Et eh ben écoute, très bien, je sais que cet éditeur là, je suis passé un peu à côté, donc il faudra peut-être qu'un jour
ça va sortir chez Delcourt là, pas mal je crois. Il y a le Second Coming, le comics de Mark Russell sur Jésus qui avait été rejeté par DC, etc., là, qui avait fait polémique, c'est eux qui l'ont accueilli et ça va sortir chez Delcourt. Pour l'instant, j'ai pas de date, mais j'ai vu ça. Et il y a une autre série, dont j'ai oublié le nom évidemment, qui est assez sympa. Enfin, il y a quelques titres à aller voir. J'ai pris des TP, là, j'ai pas encore eu le temps de lire, mais voilà, encore un éditeur qui fait des choses originales et qui change un peu du super-héros classique. Dont on a l'habitude. Mais moi, j'aime bien aller dénicher un peu des choses nouvelles et un peu différentes.
C'est bien d'être curieux, tu as raison. Chose nouvelle, nouveau projet. Le plus gros lancement chez Image Comics depuis à peu près 5 ans. C'est en tout cas comme ça qu'a communiqué Image autour des ventes du numéro 1 de cette série, dont le numéro 3 est sorti là, mais je ne l'ai pas encore lu, donc je vous parlais seulement des numéros 1 et 2 de Undiscovered Country. Nouveau projet de quelques grands noms, puisqu'il associe Charles Soule, Scott Snyder et Giuseppe Camuncoli. Donc on n'est quand même pas sur des petits noms. On rajoute à ça Daniel Orlandini et Matt Wilson pour les couleurs. Voilà, on a quand même 5 noms plutôt sympas. Le pitch de Undiscovered Country, il est assez simple. On est dans un futur proche. Et 30 ans avant les événements qu'on va découvrir, les États-Unis se sont coupés du monde. Ils ont décidé de complètement s'isoler du monde. Ils ont construit d'immenses murs. Plus personne ne pouvait ni entrer ni sortir de ce pays. Donc d'un coup, c'était silence radio de la part des États-Unis, qui du coup n'existaient plus dans le monde, hein, tout simplement. Ils avaient laissé leur place. Donc ça fait 30 ans que ça s'est arrivé. On se doute qu'il s'est passé beaucoup de choses au sein de ce pays, mais personne n'en sait rien. Et dans le reste du monde, il se passe quelque chose de pas cool, puisqu'il y a une énorme pandémie qui décime la population. Et il y a une équipe qui cherche un moyen de soigner cette maladie et d'empêcher l'anéantissement de la population mondiale. Et puis un jour, ils vont être invités à rentrer dans les États-Unis. Et ça n'est jamais arrivé depuis 30 ans. Personne n'est jamais rentré dans ce pays. Et bah, cette équipe, du coup, est invitée à le faire. Ils pensent que c'est pour obtenir un peu d'aide pour leur recherche. Donc, ils vont se rendre à bord d'un petit vaisseau, d'un petit avion, et passer cette fameuse frontière et découvrir ce que sont devenus les États-Unis en 30 ans. Et ils arrivent dans un endroit méconnaissable et qui leur paraît même être d'un autre monde, quoi. Tellement les créatures qu'ils découvrent, l'organisation du pays qui vont découvrir aussi, enfin ça semble être d'une autre dimension, d'une autre planète, et pourtant non, c'est bien les États-Unis sur la Terre 30 ans après leur silence radio. Et du coup bah ils vont découvrir tout ça, ils vont faire leur pas dans ce pays et s'apercevoir que bah, peut-être ils sont pas les bienvenus finalement. Donc pourquoi on les a laissés entrer, qui les a laissés entrer, et pourquoi est-ce qu'on les a laissés entrer, quel est le but de ces personnes, qu'est-ce que cette Undiscovered Country finalement? Ça pose beaucoup de questions, ça installe un univers bah, assez fou du coup, hein, enfin, vraiment cette version des États-Unis un peu dystopique et tout, c'est les créatures qui sont créées, notamment visuellement par Camon Colley, c'est assez dingue. Et puis bah voilà, ce qu'on découvre, c'est bourré de surprises, ça pose beaucoup de questions, je l'ai dit, les enjeux sont intéressants. Moi, le premier numéro, vraiment, ça a été un coup de cœur. Le deuxième est très très bon aussi, et il y a beaucoup de bonus à la fin des singles, des travaux préparatoires de Camon Colley qui expliquent vraiment beaucoup de choses dans les profondeurs, notamment comment ils en sont venus à concevoir ce logo, cette couverture, toutes les étapes par lesquelles ils sont passés. Moi, j'aime beaucoup ce genre de bonus, tous les designs alternatifs sur lesquels ils ont travaillé avant d'arriver sur ces versions-là. Une longue lettre de Charles Soule et Scott Snyder qui explique la genèse du projet, qui est assez intéressante aussi quant à leur relation à eux deux. Enfin voilà. J'aime beaucoup ce genre de bonus, donc du coup il y en a pas mal à la fin des deux premiers numéros, je pense que c'est le cas aussi sur les suivants. Donc moi pour moi c'est vraiment un petit coup de cœur, une belle belle découverte que cette nouvelle série. Et ma foi, à l'heure où beaucoup de leurs projets se sont arrêtés en 2018-2019 du côté de chez Image, peut-être que là ils tiennent une de leurs prochaines de leur un de leurs prochains gros hits et de leurs prochaines grandes séries. Donc bah, c'est assez sympa d'assister à la naissance de ça. J'espère que ça va se poursuivre aussi bien. Et si ça reste aussi bien, du coup, que ça se poursuivra longtemps. Vraiment, c'est très, 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 très bien.
Ouais, c'est comme ça qu'ils l'avaient présenté, hein. C'était leur futur hit. C'était un peu ça leur méthode de vente. Moi, j'ai lu le 1. J'ai trouvé ça très, 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 très sympa, effectivement. Les dessins de Camon Colley sont très bons. L'univers proposé donne envie d'aller voir un petit peu la suite. Alors, moi, je suis assez méfiant quand même de Charles Soule et de Scott Snyder, mais surtout en mainstream. C'est vrai qu'en indé, ils sont quand même un peu meilleurs. Si on pense à American Vampire ou Letter 44 pour
Ouais,
Charles
même
Soule.
Witches,
Voilà.
qui était plutôt cool.
J'ai pas accroché, moi, Witches, j'ai raté.
Witches,
Ouais, j'ai pas
ouais,
accroché.
bof.
Mais ouais, j'ai lu que le 1, le 2 est dans mon colis Arconia qui se promène, donc il va arriver un jour, mais j'ai pas pu lire la suite. Donc, mais le 1 était vraiment, vraiment engageant.
Et c'est beau.
Donc, c'est vrai que on sent
En
que le gars
plus.
s'est investi et il y a du boulot. Ouais. Ouais, non, c'est un bon départ.
À surveiller, à suivre, en tout cas, on vous en reparlera dans quelques mois, une fois que le premier arc sera terminé, pour faire un petit point et voir si les choses continuent comme ça, mais ça paraît super bien engagé, c'est cool et assez motivant du coup. Boris, tu vas enchaîner, c'est toujours du Image, hein, ça, Death of Glory.
Tout à fait, oui. C'est du Image, c'est du Rick Remender et du Bengal, le dessinateur. Donc c'est une série dont le tome 1 est sorti en VF en juin ou juillet dernier, je crois, qui là vient juste de reprendre son deuxième arc. Il y a eu une grosse pause entre les deux à la fin du 6. Et là, c'est le numéro 8. Donc le pitch, pour faire rapidement, c'est l'histoire de Glory, une jeune femme qui est garagiste au fin fond des États-Unis. Et dont le père a un des problèmes au foie et donc il doit se faire greffer. Mais bon, on est aux États-Unis, donc ils n'ont pas de sécurité sociale, ils n'ont pas d'argent. Donc il faut qu'ils se débrouillent pour arriver à faire greffer le père. Et donc ça passe par des moyens plus ou moins légaux. Et donc là, forcément, ça tourne mal. Elle croise la route de voyous assez dingos dont l'objectif est de récupérer des organes, notamment des cœurs, et qui pratiquent l'opération à cœur ouverte 30 secondes après avoir attrapé un cobaye. Donc c'est un peu cracra par moment, mais c'est sympa. Cet épisode, c'est uniquement une grosse course-poursuite. Alors Bengal, c'est un dessinateur français, je crois,
Oui.
qui est assez fort pour dessiner les bagnoles, les courses-poursuites, voilà, toutes ces choses un peu hyper dynamiques. Donc au niveau des dessins, c'est vraiment très très sympa. Et c'est le gros point fort quand même de la série, il faut être honnête. Ce n'est pas une série exceptionnelle. Au départ, il y avait des thèmes un peu comme l'immigration, L'histoire de la sécurité sociale aux États-Unis, la corruption, voilà, des voyous un peu glauques. Là, dans le deuxième arc, on a laissé un peu ça de côté. C'est surtout la quête d'un greffon pour son père, et donc pas mal de courses-poursuites et de bastons. Mais ça se lit de façon super, super agréable. L'héroïne est aussi très attachante, donc ça c'est un point positif. Voilà, je lis ça avec plaisir. J'ai vu quand même, quand c'est sorti en VF, pas mal de gens qui n'avaient pas du tout aimé, qui avaient trouvé ça assez mauvais. Alors c'est vrai que c'est moins profond, moins recherché que les précédentes séries de Rick Remender. On pense à Black Science, etc., Law, Deadly Class. Là, c'est plus léger quand même en termes de scénario, mais ça se lit super bien et puis c'est très beau. Voilà, c'est des petites séries comme ça qui font plaisir à lire régulièrement. Je suis pas sûr que ça aille très loin en termes de numérotation d'épisodes. C'est pas trop où il veut aller en fait en termes de direction. Donc, je sais pas jusqu'à combien il a prévu d'y aller, mais voilà, très sympa et très beau surtout à regarder.
Ok. Très bien. Le petit point. Alors, après, Clément Révis, c'est classique. Il y a des choses qui sont un peu obligatoires hein, dans nos émissions. Il y a Clément Révis, Clément découvre ses classiques. Ouais. Et puis, il y a aussi Clément nous parle de Jeff Lemire. Voilà, ça, c'est deux choses incontournables. Donc, bah, forcément, on va avoir droit à notre petite chronique de Jeff Lemire par Clément. C'est le moment, ça y est. On va presque pouvoir créer un jingle pour ça, d'ailleurs. Tu vas nous parler évidemment d'Ascender.
Ouais, Ascender qui a repris depuis un ou deux mois, je crois. Donc, ça avait mis un peu de temps à démarrer quand même. Faut bien se l'avouer, c'était un peu poussif que Descender, même si ça restait globalement bon. Et là, ça démarre enfin. Hein. Tu sens que l'émir et donc Nguyen ont enfin réussi à poser l'univers post-Descender et que ça prend vraiment. Et il y a plein de choses qui profilent. Et notamment, donc c'était pas le numéro qui est sorti ce mois-ci, mais celui d'avant, si je dis pas de bêtises. On a eu le droit à une phase flashback qui était vraiment ultra présent parce que jusqu'à présent n'avait pas été traité, c'était passé à la suite des événements du chapitre final de Descenders, et ça a donné, je trouve, sans doute l'un des meilleurs moments pour le moment de ce début de numéro, de ce début de titre. Et donc voilà, il y a plein de choses intéressantes qui se profilent. L'émir écrit toujours aussi bien ses personnages. Je retrouve tout ce que j'aime dans cet univers Descenders, et notamment les personnages et l'état de personnages secondaires. Donc là, les personnages qu'on a connus dans Descender, forcément affrontent, on les voit combien, 20 ans plus tard, 15 ans, j'ai un mémoire.
Au moins 10 ans, mais je n'ai pas en tête exactement.
Moins, je crois. Et voilà, il y a une évolution des personnages, et donc il y a l'univers qui a évolué, on est toujours dans cette phase lunaire de magie, et les personnages qui vivent dans ce nouveau contexte, et vraiment, je retrouve tout le plaisir que j'ai eu à lire Descender, et l'émir nous propose quelque chose de différent, et bon, et clairement on s'achemine vers je pense vers un équivalent de Descenders en termes de longueur hein. Je crois que c'était environ 30-40 numéros. Là, ça m'étonnerait que ça soit moins, parce que il y a même si on voit que ça commence à évoluer, les enjeux vont arriver, je pense, lentement mais sûrement. Donc ça va dans le bon sens. Bon, en tout cas, c'est meilleur que Family Tree par exemple.
Allez, ah voilà, allez, voilà le petit tac là.
Allez, hop là, yeah. C'est gratuit, un petit coup de pied dans les couilles. Ok, bah écoute, moi j'ai arrêté en single, je préfère lire ça en TP finalement, donc je vais attendre patiemment le TP.
Moi je continue, le tout dernier là, j'ai pas eu le temps, mais effectivement le précédent avec les flashbacks, ça a multiplié les liens avec Descender, et là ça, voilà, ça densifiait la chose, et c'était super bien écrit, très touchant, mais c'est ce qu'on avait déjà dit sur la critique de plusieurs épisodes précédents, on est davantage dans l'émotion quand même.
Ouais, carrément.
Voilà, l'émotion, les personnages, que dans une histoire étoffée pour l'instant avec beaucoup de contexte derrière, ce qui était plus Descender. Mais c'est très agréable à lire, et puis Dustin Nguyen fait quand même des planches sublimes. Hein. Il perd pas son niveau le monsieur.
Ah oui.
C'est vraiment très très beau.
Non, c'est sûr.
Donc moi je continue. Ouais. Je continue, ça me plaît bien, moi, en single, ça vaut le coup, il y a ce qu'il faut dedans, quoi.
Ouais, voilà, j'avais pas détesté, mais effectivement, enfin, j'avais bien aimé, au final, ce premier arc avec du recul, mais c'est vrai que le rythme un peu particulier par rapport à ce qu'était Descender, etc., je pense que un joli relié, soit un TP, soit des hardcovers, quand ça sortira, une fois deux arcs terminés, j'aime bien les hardcovers d'Image, voilà, ça sera bien aussi, je trouve.
Ou, si tu veux, un petit tome à 10€ chez Urban, qui sort la semaine prochaine, je crois. Peut tenter.
Ouais, pas sûr. Moi, tu sais, la VF maintenant.
Non, mais c'était le prix, 10€, et puis voilà.
Ah, bah oui, c'est clair, quand t'en mets un 10€, clairement, voilà, ceux qui veulent découvrir ça et qui ont suivi Descender en VF, foncez.
Ils continuent leur prix de lancement, là, les prix découvertes.
Oh, c'est
c'était 19 euros
un
le
terme
prix
prix
découverte, c'est
découverte
ça?
qu'on aime bien, hein, des prix découvertes à 16 euros sur le tome 1 de Buffy, notamment. Bref, effectivement, c'est un terme particulier. Non, mais oui, foncez, foncez, Descender tome 1, c'est bien. Si vous avez aimé Descender, vous serez à la maison, vous retrouverez vos personnages avec quelques années de plus dans la gueule et du coup pas mal de traumatismes en plus. Voilà, non, allez-y, clairement, allez-y. Moi, je vais attendre un petit peu, puisque j'ai lu cet arc 1 en VO. Je vais attendre de voir d'autres éditions en VO reliées et puis pour continuer, mais oui, je continuerai, c'est clair. C'est clair. Une autre petite pépite dont j'avais envie de vous parler, alors là c'est vraiment mon petit chouchou du moment, enfin voilà, ceux qui me suivent sur Instagram, je l'ai décrite comme la série qui fait du bien. Enfin, c'est vraiment une série qui fait du bien. C'est Folklords, c'est chez Boom que ça sort, c'est une mini en 5, j'ai lu deux numéros pour le moment, c'est écrit par Matt Kent. Encore une fois, et c'est dessiné et les couvertures également par Matt Smith et Chris O'Halloran qui participe également pour la partie couleur, je crois, en tout cas la partie graphique. Et c'est un petit bijou de feel good, moi je trouve. Enfin, c'est vraiment, vraiment, vraiment très cool, très agréable à lire. On est dans un monde très fantasy, hein, où on va suivre le personnage d'Ansel. Ansel, c'est un mec qui est un peu en décalage dans son monde, quoi. Il est maladroit, il fait bourde sur bourde, il sent qu'il y a un truc, il se sent vraiment. Nous, on le sent, et lui, il se sent aussi en décalage avec son village, avec le monde dans lequel il vit, l'univers dans lequel il vit. Et il arrive à un âge où il faut choisir sa quête dans cet univers-là. À un certain âge, je pense 15-16 ans à peu près, enfin, si, de mémoire, les jeunes doivent choisir une quête pour se lancer dans la vie et passer du coup à l'âge adulte. Et il y a toute une cérémonie autour de ça. Chacun annonce sa quête, etc. Et lui, il a prévu d'annoncer la sienne. Sa quête à lui, c'est de trouver les Folklords. Sauf que c'est un peu un mot interdit. C'est un peu un terme banni et une quête interdite. Et le fait d'annoncer qu'il va se lancer dans cette quête-là, bah, fait qu'il devient hors la loi. Et c'est vraiment chercher à trouver les Folklords, ce qu'ils appellent les Folklords. C'est punissable de la mort. Voilà, c'est passible de la mort, tout simplement, dans ce monde-là. Et du coup, ben, en annonçant cette quête-là, il prend des risques, beaucoup, beaucoup de risques. Et ben forcément, il va devoir fuir pour pouvoir. S'il veut vraiment se lancer dans cette quête, il va devoir fuir et passer un peu sous les radars et faire preuve, ma foi, d'assez de culot et de courage. Ansel, c'est un personnage ultra attachant, son petit côté maladroit, mais en même temps hyper ambitieux, complètement décalé avec son monde, à vouloir faire une quête interdite. Enfin, ouais, c'est un personnage hyper attachant. Il va trouver de l'aide dans un autre gamin de son village qui veut lui aussi se lancer dans la même quête. Et donc du coup, bah forcément, ils vont larguer les amarres et ils vont se lancer à la quête des Folklords. Et même si les dessins sont très ronds, le trait de Matt Smith est rond et hyper doux, les couleurs sont douces et chaudes, etc. On a quand même de vrais enjeux, des choses assez sérieuses, et un second degré de lecture assez fou quant à la réalité de ce monde-là. Qu'est-ce qu'on est en train de lire? Est-ce qu'on est en train de lire quelque chose à lire au premier degré? Est-ce qu'on est en train de lire quelque chose qui est en train d'être écrit par un scénariste de notre monde mais qui se met en abîme dans ce comics-là? Enfin, il y a tout un sens de lecture autour de ce qui est fiction, de ce qui est réel, enfin, qui est ce personnage d'Ansel? Est-ce que c'est vraiment un personnage de cet univers-là? Est-ce que c'est quelqu'un de notre monde qui se trouve là-bas? Enfin, il y a un vrai mystère autour de ça et un degré de lecture qui moi, m'intéresse beaucoup par rapport à la création, par rapport aux mythes, aux légendes. J'aime bien cette partie-là aussi du bouquin. Il y a deux numéros qui sont sortis pour le moment. Les deux sont des petits coups de cœur. Et ma foi, j'ai hâte que ça de pouvoir continuer la, de pouvoir continuer et d'arriver au bout de cette mini-série. Parce que c'est ultra cool. C'est un des succès de Boom Studios sur cette fin d'année. Il y en a deux ou trois là, des séries qui ont fait beaucoup parler. Il y a Folklore Zone, il y a Something is Killing the Children, on en a déjà parlé. Et puis la troisième, c'est Once and Future. Voilà, il y a vraiment ces trois petites pépites qui sont sorties en fin d'année 2019 chez Boom. Guettez les TP, guettez les versions françaises si ça sort, parce que vraiment, les trois sont excellents. Je sais pas, Boris, si toi tu t'es laissé tenter par
Si,
Folkland.
si,
Si,
moi
si.
je teste tout, moi, donc
Ok.
j'ai lu le 1, et effectivement c'était super sympa, hein, très engageant, hein, tu disais là aussi les dessins assez ronds et des couleurs assez chaudes, traduisaient pas forcément l'histoire qui est pas forcément si joyeuse que ça, hein, clairement, mais ça donnait très envie à la fin du premier, voilà, de voir ce que Matt Kind allait proposer comme univers derrière. Et j'ai pas le 2 puisqu'il est dans mon colis qui se promène
Quelque
dehors
part dans
depuis
le
un
monde.
mois, mais il va arriver, donc je désespère pas, surtout qu'il est bien rempli. J'en profite juste pour dire pour ceux qui suivent sur le site, les Comics Stories VO, les mix VO n'ont pas disparu, hein, mais ils sont tous dans mon carton qui se promène. Tous mes comics qui devaient arriver fin décembre, je les ai toujours pas reçus, donc j'ai pas pu les lire, donc pas pu faire d'article, mais ça va revenir. Je ne
Ouais, non, ça
désespère
va,
pas.
ça va arriver. Et puis, voilà. Moi, vraiment, Folklords, j'ai lu le premier numéro, j'ai arrêté de le lire, j'avais un sourire, j'avais une banane de ouf. J'ai commencé le deuxième, mais instantanément, en ouvrant la première page, je me suis remis à sourire, et puis ça me fait cet effet à chaque fois. Enfin, c'est vraiment quelque chose. Enfin, ça fait vraiment un effet. On se sent super bien en lisant ça, alors que pourtant, c'est pas forcément toujours joyeux. Mais voilà, ça a cet effet sur moi, et sans doute lié au personnage d'Ansel, et à la manière d'écrire et les dessins et tout. Enfin, vraiment, voilà, c'est le petit bonbon du moment, quoi, pour moi. Le truc, la petite bouchée de fraîcheur, quoi. Par contre, Criminal,
Oh si, moi quand j'ouvre, je suis content.
Ouais, ça te fait sourire aussi autant que Folklore me fait sourire.
De sourire de oui de plaisir à feuilleter l'épisode. Après, au niveau de l'histoire, pas forcément, c'est sombre aussi, effectivement, oui. Donc Criminal, donc là aussi je vante régulièrement
Oui.
la qualité de cette série. J'avais mis un 10 à l'épisode 10 dans une review
Sur le site, ouais.
juste avant Noël. Donc là on est dans un arc assez long, on en est à la 7e partie et c'est l'avant-dernière partie. Donc, qui voit le sort de Teg Loless. Alors, Teg Loless, c'est un des personnages récurrents de Criminal qu'on a vu depuis le premier tome, je crois. Je crois qu'il était déjà dans le tome que tu avais lu en VF, Mathieu,
Bah, le nom me dit
il n'y a
quelque
pas
chose,
longtemps.
donc oui,
Voilà.
sans
Après, il y en a
doute.
plusieurs, des Loless, hein, il y a des pères, des fils. Je crois que c'était lui quand même. Dans cet arc, il a rencontré une femme qui s'appelle Jane et qui lui a fait un peu tourner la tête et lui faire faire des choses pas très légales, même si tout seul il se débrouille très bien. Et cette jeune femme a des objectifs, on ne sait pas trop, ça reste très mystérieux, mais on se doute qu'il y a entourloupe. Et évidemment, besoin d'argent. Donc, Teg Loless va accepter un job qui consiste à piquer la recette d'une salle de combat de catch. Et évidemment, ça va pas tourner comme c'était prévu. Donc, comme d'habitude, alors c'est un arc qui se construit petit à petit, mais chaque épisode peut, alors pas se lire indépendamment, parce que si on n'a pas lu les autres épisodes de l'arc, ça n'a pas forcément un total intérêt, on perçoit pas tout, mais chaque épisode est un petit polar, quoi, un petit thriller. Qui se tient tout seul, et tout est dans la narration d'Ed Brubaker. Alors il y a toujours les ingrédients nécessaires de ce type d'histoire, donc les trahisons, amour, mystère, une bonne petite bavure à un moment qui fait que ça bascule, et toujours un cliffhanger efficace qui donne envie d'aller voir la suite. Ça, Ed Brubaker est toujours très bon avec ses cliffhangers. Et bien sûr au dessin, Sean Phillips, qui a un trait un peu plus dépouillé, un peu plus esquissé que ce qu'il avait pu faire sur Killer Be Killed, pour ceux qui ont lu cette série, où là c'était plus travaillé, je trouvais, enfin travaillé. Voilà, il y avait un style un peu moins brouillon. Là c'est un petit peu plus brouillon, mais ça reste très bon, et surtout les secondés aux couleurs par son fils Jacob, qui a vraiment un style très particulier, fait d'aplats de peinture, ça fait un peu comme des taches de différentes couleurs et qui forment un ensemble super, super beau et super efficace. C'est vraiment un coloriste très original. Donc moi j'adore, franchement, toujours cette série. Là j'attends le dernier épisode. Le cliffhanger nous annonce quand même du lourd pour ce dernier épisode. Et puis après, ben, chaque épisode je l'ouvre avec plaisir comme toi. Peut-être pas pour les mêmes raisons, mais à chaque fois que voilà, je reçois l'épisode, je le feuillette et je vois les dessins, ça me replonge tout de suite dans cette ambiance polar sombre vraiment que j'adore.
Parfait,
Voilà
donc
bien.
chacun ses plaisirs, j'entends. On va terminer par deux numéros que, alors pour le premier, on l'a lu tous les trois. si je ne me trompe pas. Et puis pour le numéro qui conclura notre émission de ce mois-ci, on est deux à l'avoir lu avec Boris. Ce sera des reviews un petit peu collectives. Dans un premier temps, on va échanger. C'est Clément qui va lancer qui va lancer la chose. On va échanger autour de Batman 86. Tom King est parti. James
Ouais.
Tynion IV a repris le flambeau avec Tony Daniel. Et bah, tu vas nous parler du coup de ton ressenti sur ce premier numéro, version Tynion IV de Batman?
Ouais, alors James Tynion IV, c'est un auteur que j'aime beaucoup. Je l'avais découvert bah, grâce au New 52, vu que c'était le poulain de Snyder. Donc je l'ai découvert par là et j'avais beaucoup aimé ce qu'il avait fait. Et donc là, je me suis dit, j'avais arrêté Batman hein, parce que bah, moi, je fais partie de ceux qui avaient arrêté Batman aller sur les Rebirth à partir du numéro 1 avec le fameux Rodéo. En avion, ça c'était juste pas possible, donc j'ai fait le choix de ne pas continuer Batman et j'ai jamais repris depuis. Donc du coup, bah ça doit faire allez 2-3 ans que j'ai pas lu Batman, sauf quelques numéros par exception parce que c'était lié, par exemple à plusieurs trucs. Donc je partais sur un regard finalement neuf et qui n'a pas réellement connaissance de ce qui s'est passé dans le run de Tom King. Et donc là, j'ai bien capté que ce premier numéro, donc ça fait suite à ce qui s'est passé sur Tom King, mais néanmoins, on peut, en tant que lecteur qui arrive sur ce run-là et qui n'a pas suivi le run précédent, pas perdu parce que bah, c'est un numéro, somme toute, qui est forcément introductif, mais qui pose bien les choses, qui n'est pas très bavard, ou en tout cas qui pose bien les choses. Donc on voit bien que c'est un Batman à reconstruire, qu'il y a Bruce Wayne qui décide de prendre part à cette reconstruction, qu'il y a un Batman bah, qui me semblait, après j'ai peut-être mal compris, en. Peut-être essayer de retrouver une voie différente avec aussi sa relation avec Catman. Donc le ressenti que j'ai, c'est bah, c'est un bon premier numéro de run, donc il sera sans cours, mais un bon premier numéro. Les dessins de Tony Daniel sont super, ça correspond parfaitement à Batman. Donc voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à relire à beaucoup de plaisir à lire ce numéro et je me suis dit au cours de la lecture, j'ai ah bah, enfin ça c'est ce que j'aime lire quand je lis du Batman. Vraiment, je trouve une belle entrée en matière.
Et toi, Boris?
Moi, j'ai bien aimé, mais j'ai manqué un petit quelque chose, une petite étincelle. Donc, j'avais fait une review sur le site, c'est ce que je mettais. Moi, j'ai trouvé qu'il gérait. Alors, j'ai pas lu la fin du run de Tom King. Je sais ce qui s'est à peu près passé hein, dans les grandes lignes, mais j'ai arrêté au 75, je crois. Et je trouve qu'il gère bien tout ce qui est la partie émotion suite aux différentes choses qui se sont passées à la fin du run. Les conséquences, c'est assez touchant de ce point de vue-là. Sa relation avec Lucius Fox, avec Catwoman, je trouve que c'est bien écrit. Les dialogues sont bien écrits, voilà, c'est touchant. Après, d'un point de vue, comment dire, relance voilà, d'une nouvelle intrigue, mettre quelque chose en place, j'ai trouvé que c'est trop introductif, quoi. Cette partie avec Deathstroke, bon, ça montre ce qu'il veut faire un peu, c'est-à-dire que on va retrouver un peu d'action, un peu d'enquête, mais il manque un petit quelque chose, quoi. J'ai trouvé ça sympa, mais pas exceptionnel. Pour du James Tynion IV, j'attendais un petit peu plus. Sinon, dessin, effectivement, Tony Daniel, c'est du classique Batman, mais c'est du très bon dessin. Hein. Voilà mon ressenti.
Oh bah pour ma part, qu'est-ce que c'est beau déjà. Pouah. Ah, Tony Daniel sur la première double page là. Vous ouvrez votre numéro, vous avez une page d'escalade et tout, et là vous tournez, vous prenez une double page dans la gueule, mais elle est monstrueuse. Enfin vraiment c'est sublime. Et c'est comme ça pendant tout le numéro. Enfin vraiment Tony Daniel de feu sur ce numéro. Moi c'est la première chose vraiment que je voulais te dire sur cet épisode. C'est dingue, visuellement c'est dingue. Quand ceci est dit, j'ai trouvé l'écriture de Tynion IV assez touchante, notamment par rapport à Alfred.
Ah oui.
Y a quelques moments là qui sont vraiment touchants, où on a vraiment de l'empathie pour Bruce Wayne, pour Batman, selon qui est à l'image. Ouais, ça m'a touché cette façon de traiter les événements de Bane, je sais plus quoi là, enfin de l'arc contre Bane là, oui c'est où du coup bah Alfred a perdu la vie. Voilà, moi ces petits moments-là m'ont paru super bien écrits, super bien sentis. Enfin voilà, il en a fait juste ce qu'il fallait. Ça c'est réussi. Après pour la suite du run, c'est encore un peu tôt pour dire si ça va être bon, si ça va pas être bon. Ce numéro-là fait le job visuellement, il fait le job par quelques moments de grâce, enfin niveau émotion. Le lien avec Luke Fox est sympa. Voilà, c'est engageant, ça me plaît. Pour le moment, je me garderais bien de dire que Tom King, enfin que Tynion IV est retour à la maison et qu'il va nous faire la même chose que sur Detective Comics. On en est loin, Mais pour le moment, en tout cas, c'est bien parti. Voilà, j'ai hâte de voir la suite, de me prendre d'autres claques de Tony Daniel, de voir Yorey Jiménez arriver là derrière tout ça. Voilà, ça me hype. Maintenant, attendons. Et puis le dernier dont on va parler, et là c'est toi et moi Boris qui l'avons lu, je vais te laisser démarrer, c'est Thor, Thor numéro 1, l'ère Jason Aaron, une ère qui a quand même duré un bon paquet d'années, 8 si je ne m'abuse, est terminée, et c'est Donny Cates du coup à qui on a confié la lourde tâche, très très lourde tâche, de succéder à Jason Aaron, et on a eu le numéro 1, et ma foi...
Oui. Alors, c'est scénarisé par Donny Cates, dessiné par Nick Klein, je sais pas comment on dit,
Nick Klein,
et
ouais.
colorisé Nick Klein et colorisé par Matthew Wilson, qui a déjà travaillé avec sur Thor les séries précédentes, quoi, sur le run de Jason Aaron. Donc, en fait, Donny Cates j'avais lu ça récemment dans une interview, expliquait que ça faisait 2 ans qu'il sait qu'il va reprendre Thor après Jason Aaron, et donc tout ce qu'il a écrit jusqu'à maintenant vise à construire son grand univers pour arriver à cette série Thor, parce que c'est le personnage qu'il avait absolument envie d'écrire. Donc, à l'ouverture et à la lecture de l'épisode, on constate quand même que c'est effectivement le cas. Donc, je vais donner un pitch assez rapide. Donc, à la fin du run de Jason Aaron, Thor est redevenu souverain d'Asgard. C'est un souverain quand même qui doute, qui s'interroge beaucoup et qui doit faire un discours devant le peuple d'Asgard. Et là, bon, on est obligé de le dire, ça révèle un petit peu, mais bon, Galactus s'écrase sur Asgard et vient demander de l'aide à Thor à propos d'une menace qu'il décrit comme s'appelant le Black Winter. Voilà. Et donc Thor va essayer de voir de quoi il s'agit et il va être aidé par le Silver Surfer qui va arriver et également par les héros de Galactus. Donc on va retrouver les personnages sur lesquels il a travaillé, le Cosmic Ghost Rider, le Silver Surfer et tout un tas de personnages. Alors moi ce que j'ai trouvé fort, c'est à la fois il arrive à utiliser l'héritage de Jason Aaron et les conséquences de ses propres séries, et il fait un mix de tout ça qui fonctionne super bien. Il laisse pas de côté les nouveaux lecteurs qui voudraient être tentés de démarrer par ce numéro 1, parce que à travers de ces pages, on arrive à comprendre un peu, même si on n'a pas lu Silver Surfer Black, si on n'a pas lu les séries précédentes, on comprend à peu près tout de façon assez simple. C'est super bien dialogué, il y a toujours un peu d'humour, comme dans toutes les séries de Donny Cates, c'est toujours léger, ça, il n'y a pas de lourdeur, hein, c'est toujours bienvenu. Et puis on sent bien avec ce gros cliffhanger à la fin et cette menace bien dure, là, que ça va être assez épique. Moi j'ai trouvé ça vraiment extrêmement efficace, extrêmement bien écrit. Et puis Nick Klein au dessin, moi je me souviens l'avoir eu sur Captain America, je crois, à l'époque de Rick Remender, pardon. J'en gardais pas un souvenir exceptionnel et là j'ai trouvé ça super bien dessiné, quoi. J'ai trouvé que le gars c'était vraiment dépouillé et les couleurs de Matthew Wilson conservent, on va dire, l'esprit qu'il y avait dans le Jason Aaron. On n'est pas perdu au niveau image, au niveau dessin. Donc moi j'ai mis la note maxi pour cet épisode.
Ouais, c'est super bon. Et effectivement, depuis le début, hein, depuis Thanos, depuis le comics, le Cosmic Ghost Rider, etc., on a vu beaucoup de références à Thor. Enfin, le run de Jason Aaron a été multiples fois référencé. Et on se disait, tiens, c'est quand même dingue que Donny Cates, dans tous ses écrits, arrive à chaque fois à nous placer une référence par rapport au run de Thor, etc., de Jason Aaron. Bah écoute, maintenant, du coup, oui, effectivement, je ne savais pas ce que tu m'as dit là, que ça faisait 2 ans qu'il le savait et qu'il préparait. Bah ouais, effectivement, ça s'est senti. Ça se sent même dans son Venom, il y a des références dans les premiers numéros, etc. Enfin voilà, en permanence, effectivement, il y avait ça en toile de fond, ces références au run de Thor de Jason Aaron, etc. Effectivement, maintenant, on comprend. Si effectivement, il le savait depuis 2 ans et qu'il s'y préparait, bah ouais, il s'y est préparé. Et parce que vraiment, l'impression qu'on a quand on lit ce numéro 1 de Thor, comme quand on lit beaucoup des projets de Cates chez Marvel, bah, c'est que ça fait partie d'un tout. Et que
Oui,
tout amène à quelque chose.
régulièrement dans ces séries, on voyait des références à d'autres séries. Enfin, voilà, tout se construit petit à petit.
Voilà, et vraiment ce Thor qui était présent en toile de fond tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et bah ouais, bah peut-être que ça va être l'aboutissement du coup de son run chez Marvel, son grand run, son grand plan peut-être, je ne sais pas. En tout cas, ouais, c'est enthousiasmant.
C'est ce qu'il a en tête, a priori. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. C'est le début du grand truc, quoi. En fait, c'était pour l'instant, on n'a eu qu'une introduction.
Bah purée. Si c'était que l'introduction, j'ai hâte de voir ce que va donner le développement. Non, c'est enthousiasmant, c'est un bon numéro. Les dessins de Nick Klein collent parfaitement au truc. C'est cool, c'est cool. Et puis bah, toujours ce petit truc. cette impression qu'on va assister à quelque chose de grand dès le premier épisode, et à chaque fois il nous fait le coup. À chaque fois il nous place un truc, on a l'impression que l'univers entier est menacé par ce truc sorti de nulle part, mais en fait pas tant que ça sorti de nulle part, parce qu'il arrive à nous le raccrocher à des wagons du passé de la continuité Marvel, et même si c'est des inventions de sa part, des créations, on a l'impression que ça a toujours existé et que bah, depuis le début c'est prévu que ça arrive, et c'est assez fort de sa part.
Ouais, on sent qu'il maîtrise son sujet quand même. Il voit où il veut aller, il balle de la chose assez impressionnante. Et puis il a toujours, il sait toujours nous surprendre. Moi, je trouve qu'à chaque fois que je lis un épisode de ces séries, t'as toujours un truc qui te surprend. T'es pas tout le temps sur les fesses, mais pas loin. Il y a
Surtout les
toujours un.
premiers, surtout les premiers épisodes, les premiers arcs, où t'as l'impression qu'on t'emmène quelque part, et là, typiquement dans ce premier épisode, tu as l'impression d'assister à quelque chose, et bim, tout se casse la gueule, et tu apprends en fait que pas du tout ce que t'as vu, c'est pas du tout ce qui va se passer par la suite, et qu'en fait, bah, il te twiste le truc, voilà, à chaque fois de manière assez folle. Et enfin, c'est ce que j'aime aussi chez lui. Donc bien, bien. Non, ouais, je suis emballé aussi. Je suis emballé aussi par ce premier numéro de Thor qui semble faire l'unanimité. C'est très bien. Du coup, je vais continuer, évidemment.
Et pas besoin, pour ceux qui hésiteraient, d'avoir lu tout le run de Dishonored. Moi d'ailleurs, j'ai pas fini, il faut que je le termine.
Tout
J'ai
est
pas.
expliqué.
Et c'est expliqué de façon super fluide, sans lourdeur et sans. Voilà, c'est pas didactique, ça passe tout seul, quoi.
Ah non, c'est
C'est
vraiment
vraiment super bien
intégré, c'est...
écrit.
Voilà. Vous n'avez pas lu le Thor de Jason Aaron, c'est pas grave. Il y a quelques phrases qui vous suffiront à tout vous expliquer, ce que vous avez manqué et ce qu'il faut savoir, et c'est parfait comme ça. Donc on termine par un très très bon numéro, ma foi, cette émission de janvier. C'est cool. Vite la suite, j'ai envie de dire. Et ben voilà, on va se quitter maintenant. Je vous rappelle les quelques actus du site, évidemment, hein. La semaine spéciale Giant Days et John Allison qui va arriver à partir de samedi prochain, le 25. Le concours avec Akileos qui est en cours, hein. Trois exemplaires du tome 1 de l'intégrale de Giant Days qui sont en jeu. Donc n'hésitez pas à aller nous faire une petite visite sur le site et à remplir ce formulaire. Les questions sont assez simples et ma foi, vous avez une chance quand même de repartir avec de beaux bouquins. Et puis les Comic Stories Awards 2019, les votes, je vous rappelle, sont ouverts jusqu'au 26 janvier. Donc vous êtes déjà pas mal à avoir voté, continuez, continuez. Et on vous proposera du coup le palmarès à la toute fin du mois. On va essayer de caler ça quand même assez proche de la fin des votes pour vous le proposer si possible encore en janvier. Donc voilà pour l'actu et l'avenir. Et puis ben, dans le prochain épisode classique, on va dire, dans la prochaine émission classique, on recevra des invités. On vous parlera d'une association qui nous a contactés, qu'on a découvert grâce à au contact qu'ils ont pris avec nous et dont l'action, ma foi, nous plaît. C'est l'association Mangomix Access, ex-ami des mangas, qui a un but tout simple. Enfin, un but tout simple, mais à la fois hyper compliqué et qui demande un travail de dingue. Ça fait 9 ans qu'ils se sont lancés. Enfin, en tout cas, 9 ans que l'idée a germé. Et leur travail, c'est transcrire des comics en braille et en audio pour que les déficients visuels puissent découvrir cet univers-là. Ils ont commencé par les mangas, maintenant ils se lancent dans les comics. Ma foi, c'est un projet qui nous intéresse, qui nous semble mériter qu'on en parle. Donc on recevra des personnes de cette association la prochaine fois, qui viendront eux-mêmes vous expliquer bah, le projet, le concept, qu'est-ce qu'ils font dans leur association et de quoi ils ont besoin, parce qu'évidemment ils ont besoin d'un petit coup de main pour les transcriptions, pour la narration, etc. Donc bah, voilà, ils vous expliqueront tout ça la prochaine fois, mais en tout cas voilà, si vous êtes curieux, déjà, juste par cette petite présentation que je vous ai fait d'eux, bah, n'hésitez pas à aller les voir, hein, c'est Mangomix Access. Voilà, si vous cherchez sur internet, ils ont un site. Même si vous cherchez Amis des mangas, qui est leur ancien nom, vous devriez les trouver. Donc voilà, allez faire un tour chez eux. Et puis on les recevra du coup la prochaine fois pour parler de tout ça. La question rituelle pour terminer, vous n'y échapperez pas. Vous allez lire quoi en février? Enfin, fin janvier et février du coup.
Mon Dieu, j'ai pas réfléchi.
Oh, toi, t'as un gros
Attention.
carton qui t'attend.
Moi, j'ai déjà tous mes comics de la semaine du 18 décembre qui doivent arriver, et donc ça va m'occuper une bonne semaine. Qu'est-ce qui va sortir? Il y a le Guardian of the Galaxy de Alan Wing qui va sortir bientôt. Là, moi, je vais aller jeter un œil encore. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je vais lire après? Alors, il y a des séries qui vont sortir là. Voilà, j'ai un trou. Et eh ben, je sais plus. Comme ça, c'est plus simple.
Bah écoute.
Après, il y a des suites de séries classiques. Hein,
Oui.
je vais me lancer dans les Ice Cream Man en single.
Je
Donc,
vais
je vais reprendre
commencer.
le nouvel arc.
Je vais commencer
Ah,
en VO. Ça
bien.
fait partie des choses que je vais commencer. J'ai précommandé les singles du nouvel arc là, et puis je vais me faire les TP, les premiers TP. Du coup, un peu comme toi, du coup, au final, même méthode se trouve. Tu as réussi à m'intriguer. L'interview de Martine Morazzo m'a piqué aussi. Ce mec-là, elle est en plus ultra sympathique. Et
Oui, tout à fait. Oui.
d'entendre que du bien autour de cette série, ouais, j'ai envie d'y aller. J'ai envie d'y aller. Les petites séries anthologiques comme ça, en général, c'est mon kiff. Donc, je comprends pas pourquoi j'ai toujours pas commencé. Donc, je vais vite rattraper ça.
Et après, c'est des séries, des suites de séries essentiellement. Hein. Peut-être Seeds numéro 3 qui est programmé pour le 26
Oui,
février
il arrivera peut-être un jour, oui.
2020, peut-être, 2021, je ne sais pas. Mais... Et après, il y a quelques mini sur X-Men Fantastic Four là, de Chibzarsky qui sort. Je vais essayer de regarder ça. Des nouvelles séries du Joel Imprint. Bon, j'ai pas tout, j'ai tout commencé, mais il y en a une ou deux que je vais arrêter qui m'ont pas trop plu. Enfin, voilà, et puis. C'est tout. Je crois qu'il y a quelques Giant Size X-Men là, qui sortent aussi.
Aussi, ouais, il y a pas mal de choses hein, dans les X-Men qui
Voilà,
sortent.
il y a quelques. Mais c'est surtout des suites de séries déjà bien entamées. Et si juste il y a le Bitterroot qui va reprendre, alors ça sort en VF là, dans le milieu de la semaine chez iComics. Donc là aussi, il va y avoir une review et une interview de David Walker pour ceux que ça intéresse. Et ça reprend le nouvel arc bientôt en VO.
Oui, effectivement, tu as raison d'en parler. Interview de David Walker qui arrive cette semaine chez nous avec la review du premier tome de Bitterroot. Exact, exact. Je l'avais oublié celle-là, mais c'est quand même assez important aussi. Clément, tu vas nous lire quoi, toi? Quel est le classique que tu vas rattraper?
Le classique que je vais rattraper, que je suis en train de rattraper, bon, qui est récent hein, pour le coup, c'est en VO, je l'ai acheté en CDD cette semaine, le Spider-Man Life Story.
Ma foi de saine lecture, c'est bien.
C'est
C'est
ça,
ça.
mais déjà classique, effectivement.
Notre lobbying paye.
C'est ça. Non, j'ai lu le premier chapitre qui c'est génial, donc je pense que je vais lire la suite rapidement. Après, j'ai mes comics habituels. Après, je me demande s'il n'y a pas le numéro 2 de The Question
Qui vient de
qui va pas
sortir,
sortir.
oui.
Il est sorti,
Vient de
ouais.
sortir?
Ouais, la
Bon,
semaine
bah,
dernière, je
il vient
crois.
de sortir. Ouais, la semaine dernière, oui.
D'accord, j'aurais celui-là, et puis après, après la VO habituelle, après je suis assez perdu parce qu'il y a certains numéros, bon après c'est surtout le Black Label qui sort quelquefois tous les 2-3 mois, donc
Mais Dan
après
Didio l'a
j'aurais...
promis, il n'y aura plus de retard dans le Black Label.
Ouais, il l'a promis, c'est vrai. Et puis après, bah, peut-être la VO, je vais voir si j'achète pas du The Boys en omnibus, mais après j'ai un peu déjà du boulot, et puis un peu de trop de choses là à lire, j'ai encore le God Country que j'ai fait dédicacer à la copine à lire.
Très bon ça.
Et ouais, et puis j'ai d'autres TPB que j'avais acheté en promo qui sont à lire, du New Avengers, enfin plein de trucs à lire.
Ok, très bien. Et pour ma part, mon mois à venir va être occupé par pas mal de petites choses. Pas mal de John Allison encore, hein, comme d'habitude. Hein, même si j'ai déjà lu, je vais me faire évidemment ce tome 1 chez Akileos de l'intégrale d'Iron Days. By Night chez iComics. Chez Bliss Edition, n'importe quoi. By Night chez Bliss Edition que j'ai pu déjà découvrir et qui est très très sympa. Ça sort là la semaine prochaine aussi. Ma foi, c'est cool cette série, donc allez-y, jetez-y un oeil. J'en proposerai une chronique sur le site d'ailleurs. Et puis, dans ce que je vais lire, du coup, je vais me replonger dans mes Young Avengers. Je vais ressortir mes singles de Young Avengers parce que, ma foi, je suis fan de ces personnages-là. Et Hulkling va être au centre de l'événement Marvel à venir, Empire. Et forcément, ça va être la fin du gros arc autour d'Hulkling qui avait commencé dans Young Avengers. Donc, je suis très sensible à ce personnage. Voilà, je vais me refaire un petit peu tout son historique pour pouvoir attaquer Empire après. Et puis quoi d'autre? Toujours Watchmen dans sa nouvelle édition chez Urban, évidemment. Enfin voilà, je suis pas mal dans l'ancien en ce moment. Et puis du coup, peut-être The Boys et puis Ice Cream Man. Ça sera déjà un gros mois si j'arrive à faire tout ça.
Ouais, ça sera pas mal.
En plus de toutes les sorties que je suis habituellement.
Ice Cream Man, une fois que tu auras lu le premier TP, tu seras obligé d'enchaîner
Moi,
avec les trois
je
autres.
pense, je pense, ouais.
Donc,
En fait, je suis
si tu
dans
veux être un jour
une.
pour lire les singles.
Je suis dans une stratégie où je me dis, je vais m'acheter le premier, je vais lire le premier numéro, et si celui-là m'accroche, je vais acheter le reste, pour ne
Ouais,
pas
c'est.
avoir cette espèce d'attente.
Ouais, moi, c'est à peu près ce que j'ai fait. Et c'est vrai que c'est. Puis en plus, ça monte crescendo en termes de. Alors, les épisodes, c'est des épisodes indépendants, mais il y a quand même un petit fil rouge derrière. Et ça tient bien la route. Et puis voilà, c'est vraiment barré de chez barré. C'est ça qui me plaît, quoi. C'est vraiment original.
Voilà, donc pas mal de choses à lire. Et puis j'aimerais bien continuer aussi le run de Bendis Daredevil que je me refais en ce moment, puisque bah, là aussi j'ai les singles, donc je les ressors de temps en temps. Genre, j'en suis au tout début du run que je me refais, et ma foi, c'est sympa. Enfin voilà, j'ai pas mal de vieilles choses.
Tu te refais pas le Daredevil de Charles Soule?
Pas du tout. Bah, figure-toi que je me suis aperçu en parcourant ma collection là, il y a peu de temps que bah, j'ai le run intégral de Bendis en single, celui de Brubaker, celui de Mark Waid. Et puis il y a un trou, et puis j'ai repris au run de Zdarsky. C'est bizarre,
C'est bizarre,
hein?
ouais. C'est le meilleur pourtant.
C'est ouf, hein? Donc
C'est...
voilà, pas mal de petites choses sympathiques. Peut-être me refaire Lock and Key aussi, parce que la série télé arrive sur Netflix et puis que j'avais adoré ça. Enfin voilà, il y a du boulot. Il y a du boulot. Plus des interviews, plus des articles, plus pas mal de projets aussi. Ce mois de février va être, ma foi, bien dense, donc on vous retrouve très vite pour les Comic Stories Awards, pour le prochain numéro avec nos invités du coup devant Gomix Access, et puis d'ici là, bah, allez voter, allez participer au concours Aquileos, et puis bah, bonne lecture, évidemment, à bientôt!
Au revoir.
Au revoir.